وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله جميعا السلام عليكم ومرحبا بكم et bienvenue à tout le monde. Nous sommes ce soir mercredi 13 Jumad al-Ula 1428, c'est-à-dire le 30 mai 2007. Nous sommes toujours avec la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons juste faire une petite révision et commencer le nouveau dars. La fois passée, on s'était arrêté sur... On parlait de la prosternation. On parlait de la prosternation. Donc, on va revenir juste un peu en arrière, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, et dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il était incliné, il disait Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi, Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi, Subhan Rabbil Azim wa bihamdihi. Ensuite il disait Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, ou Rabbana wa lakal hamd, ou Allahumma Rabbana lakal hamd, ou Allahumma Rabbana wa lakal hamd. Le mohim, il joignait entre les deux, et nous tous on doit joindre entre les deux, c'est-à-dire Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ensuite il restait debout le temps que tous les os et les articulations reviennent à leur place. C'est pour ça que, de préférence, on dit quelque chose d'assez long. Par exemple, Sami'a Allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Ou, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd wa mil ama baynahuma, Allahumma la mani'a limma ata, pardon, baynahuma, ensuite, baynahuma, طيب, il faut que je recommence pour le dire juste. سمي الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض من بينهما من أمشت مشين بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ensuite il se prosternait. طيب nous au moins si on se suffisait à سمي الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ensuite il se prosternait. Quand il se prosternait il disait الله أكبر et il descendait. Là j'avais dit que on dit Allahu Akbar et on descend, et on ne dit pas Allahu Akbar pendant toute la descente, et seulement on dit Allahu Akbar parce qu'il y a en arabe Summa. Summa ça veut dire et après il descendait. Maintenant on descend, la vie le plus juste, on descend sur les mains et non pas sur les genoux. On commence par faire descendre les mains, il faut que les mains, les deux mains touchent, bi'idnillah azza wa jal, touchent le sol avant que les genoux ne touchent le sol. Ensuite, on pose notre tête et on doit faire bien attention à ce que notre nez touche aussi le sol. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que quand tu te prosternes, yani, sois ferme dans ta prosternation. C'est-à-dire, on écarte les mains à droite et à gauche de nos oreilles, ou bien à droite et à gauche, ou bien de nos épaules. C'est la même chose. On écarte nos mains, on lève les bras pour que les bras ne touchent pas le sol. Naam. Quand on a posé notre tête, on l'a posé un peu loin, pas devant nos genoux. On l'a posé un peu loin vers l'avant, vers la sutra, de façon à ce qu'on laisse entre notre tête et la sutra on laisse seulement bien un mouton voulait passer. Petite parenthèse, on ne le laisse pas passer. Un mohim. Pour que ça touche pas le sol, et de façon on a tellement levé les bras que si un petit mouton voulait passer entre nos bras, il aurait pu passer bi'idnillahi azza wa jal. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se prosternait ainsi, les compagnons radiallahu ta'ala disaient on se sentait yani, peiné, on se sentait peiné, on se sentait gêné. Quand on le voyait comme ça faire, yani, il nous faisait de la peine. Donc vous voyez qu'il sentait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cette prosternation, il faisait des efforts. Naam, quand tu te prosternes, une prosternation pareille, tu sens que tu t'es prosterné, tu sens tes os, mashallah, qui ont fait des efforts. Tu sens un poids sur ta tête et sur tes bras. Mais si quelqu'un se prosterne seulement à aller devant ses genoux, celui-là, il n'a pas fait la vraie prosternation. Maintenant, quand on est prosterné et on a les mains, comme j'ai dit, à droite et à gauche, écartées, les avant-bras levés, les mains qui ne sont pas collées aux oreilles, sont écartées des oreilles, assez loin. On a aussi quoi ? On a les doigts des mains qui sont dirigés vers la Qibla. Les doigts des mains dirigés vers quoi ? Vers la Qibla. Même le pouce, si on peut, on le dirige vers la Qibla. Et pour que tes doigts soient dirigés vers la Qibla, il faut que tes doigts soient serrés. Non, si les doigts sont ouverts, tu ne peux pas les diriger vers la Qibla. Faire le petit doigt, l'auriculaire, irait vers la droite et le pouce vers la gauche. Donc toi, quand tu fermes tes doigts, obligé qu'ils soient vers la Qibla, et même le pouce, si tu peux, tu le mets vers la Qibla. Maintenant que tu es prosterné, tes pieds derrière toi, tu dois joindre entre les talons. Les talons doivent se toucher du côté des chevilles internes. Du côté de la cheville interne, les talons doivent se toucher et les orteils, yani, l'avant des pieds doit aussi toucher. Non, on doit toucher nos pieds avec yani, le talon du côté des orteils à l'intérieur et aussi les débuts du pied. Pas le début du pouce, juste où se termine le pouce. Juste où se termine le pouce, à l'intérieur des pieds, là-bas aussi, ça doit toucher. De façon à ce que si on regarde quelqu'un qui est prosterné, on le regarde de derrière, on voit que ses pieds sont fermés, on ne peut rien voir de lui. Parce que par exemple, si un homme se prosterne, par exemple, il est avec un kamis, et s'il ouvre comme ça ses pieds, il ne fait pas la sunna, on risque de voir les sous-vêtements. Ah, s'il a seulement sur le kamis, par exemple, des sous-vêtements, il n'a pas de pantalon, on risque de voir ses sous-vêtements. Non, c'est pour ça que c'est de la sunna, alhamdoulilah, la sunna fait toujours du bien. C'est pour ça que quand il ferme ses talons, on peut pas voir yani, ses sous-vêtements s'il n'avait pas de pantalon. Mais nous, on ne fait pas seulement à cause de que les gens ne nous voient pas, mais on fait cette chose pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre chose, quand on est dans cette position, les orteils des pieds, on doit les plier vers la Qibla. On ne laisse pas les orteils qui vont vers le nord, vers l'ouest, mais on les plie à l'intérieur pour que les orteils soient dirigés aussi vers la Qibla. Maintenant, je crois qu'on va commencer le nouveau. Maintenant, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le titre, se lever du sujoud. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se lever du sujoud. Ben nous aussi, on va se lever du sujoud. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, levez sa tête de la prosternation. Taïb, avant d'oublier, dans la prosternation, qu'est-ce qu'on dit ? On dit au moins Subhana Rabbi al-A'la. Al-A'la, c'est pas l'Azim. Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la, Subhana Rabbi al-A'la. Et beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut faire des doigts. Il n'y a pas seulement une demi-heure avant de faire salat l'Isha, déjà quelqu'un qui m'a dit est-ce que quand on se prosterne, on peut faire des doigts dans la nafila. Dans la nafila, il ne sait pas. Tu lui dis, subhanallah, tu ne sais pas qu'on peut faire les doigts aussi dans la prière obligatoire? Il m'a dit, non, je ne savais pas, subhanallah l'avait. Donc, quand on dit subhan rabbi al-a'la, subhan rabbi al-a'la, subhan rabbi al-a'la, ensuite qu'est-ce qu'on fait? On fait les doigts. Comme m'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il m'a été interdit de lire le Coran quand je suis prosterné, incliné ou prosterné. Quand vous vous inclinez, Azimur Rabb, glorifiez Allah subhanahu wa ta'ala, et quand vous êtes prosterné, Aksiru min sujoud, كثير من السجود، فقامنون ان يستجب لكم. فات بوكو دو دعاء كار فوز ات ان شاء الله تعالى انكلا ا اتر اكزوسي دون بو دعاء. اي دون ان اوتر حديث لو بروفيت صلى الله عليه وسلم ا دي اتوندي جو مو رابيل لو حديث الى دي يعني كي بار دو سجود اوسي الى دي نعم اما السجود الى دي اما السجود كي اوبي سون ديبي مي سا فان سي كوم سا الى دي اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء فاجتهدوا في الدعاء او اكثروا فيه من الدعاء. Donc, dans le sujoud, quand on est prosterné, on ne se suffit pas seulement à subhan rabbil a'la, on lève la tête. Mais on fait des du'as, on fait des du'as personnels. On fait des du'as à nous-mêmes, à nos enfants, à quelqu'un est malade, etc. Bien sûr, sauf si celui qui nous guide, s'il a levé la tête, on doit lever la tête et arrêter les du'as. Maintenant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se lever du sujoud. Il levait sa tête de la prosternation tout en disant le takbir, Allahu Akbar, et ordonnait de faire cela à celui qui priait de façon incorrecte, en disant la prière de toute personne n'est pas complète jusqu'à ce qu'elle se prosterne, jusqu'à ce qu'elle se prosterne, jusqu'à ce que ses membres soient en repos et qu'elle dise Allahu Akbar, Allah est le plus grand, et qu'elle relève sa tête jusqu'à ce qu'elle soit assise bien droite, jusqu'à ce qu'elle soit assise bien droite. Donc, vous remarquez ici une chose très importante, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il levait sa tête, il levait sa tête tout en disant quoi? Allahu Akbar. Naam. Parce que certaines personnes lèvent la tête, ils s'assoient, ils disent Allahu Akbar. Non. Mais le plus juste, c'est quand on lève la tête, on dit Allahu Akbar. Yani, tout en levant la tête, on dit Allahu Akbar. Et parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Parfois, il levait ses mains en disant ce takbir. Parfois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est prosterné, il va dire Allahu Akbar pour s'asseoir entre les deux prosternations. Qu'est-ce qu'il fait? En même temps, il dit Allahu Akbar et il lève ses mains. Il lève ses mains avec Allahu Akbar et il s'assoit entre les deux prosternations. Cette sunna, bien sûr, beaucoup de gens ne la font pas car la plupart ne la connaissent pas. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est de la sunna de temps en temps de lever les mains, non seulement dans la prosternation, du lever de la prosternation, mais on va le voir dans toute la salat. Ici, le cheikh, Ali Rahmatullah, a dit, Cheikh Al-Albani Rahmou a dit, c'est un hadith bien sûr authentique, Abu Dawoud et Ahmed avec Sanad Sahih, il a dit, levez les mains ici, c'est-à-dire lorsqu'on se lève la prosternation, on lève les mains, levez les mains ici, et à chaque takbir, était le point de vue adopté par Ahmed, comme dans Bada'i' de Ibn Qayyim. Naam. Al-Athram, Ibn Athram indiqua, d'après lui, que l'imam Ahmed, l'imam Ahmed, qu'il fut questionné à propos de lever les mains, du fait de lever les mains, il dit, qu'est-ce qu'il a répondu, il dit, à chaque fois que l'on se baisse et se lève. Et l'Atram a dit, j'ai vu Abu Abdillah, c'est-à-dire Abu Abdillah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, il a dit, je l'ai vu, levant les mains dans la prière à chaque fois qu'il se baissait et se levait. Cheikh Al-Albani Rahmou a dit, c'est aussi l'opinion de Ibn al-Munzir et de Abu Ali de l'école Shafi'ite. Et c'est aussi également une opinion de Malik et Shafi'i eux-mêmes. Malik et Shafi'i eux-mêmes. Naam. Donc, là, on va, et d'ailleurs il y a même un hadith sahih en ce sens, donc on va apprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle sunnah. C'est quoi? C'est que, de temps en temps, essaye de lever tes mains avec chaque en chaque descente et chaque levée. Non, à chaque fois que tu descends, à chaque fois que tu lèves, tu te lèves, ou là tu lèves la tête, tu lèves les mains, à chaque fois que tu dis Allahu Akbar. Ça, c'est une sunna qu'il faudrait insister bi'idna ta'ala pour la vivifier et la faire de temps en temps pour que awalan, suivre le prophète alayhi salatu wasalam est limité, et deuxièmement pour que les gens sachent que c'est une sunna afin qu'elle ne meure pas. Donc vous pouvez la faire par exemple de temps en temps dans la nafila. Dans la nafila, vous pouvez la faire par exemple de temps en temps. Donc je répète, c'est comment? Regardez comment ça se passe. Je dis, je vais commencer la salat, je dis Allahu Akbar. Je lève mes mains jusqu'à mes oreilles ou à mes épaules. Je ne touche pas mes oreilles. Ensuite, je lis le Fatiha, je lis le Surah. Maintenant, je vais m'incliner. Je dis Allahu Akbar, je lève les mains. Je m'incline. Maintenant, je suis incliné. J'ai dit Subhanallah al-Azim trois fois. Je vais lever la tête. Je dis Sami'a Allahu liman hamid. En même temps, je lève les mains. En même temps, je lève mes mains. Je dis Sami'a Allahu liman hamid. J'ai levé les mains. Maintenant, je vais me prosterner. Je vais me prosterner. Je dis Allahu Akbar et je lève mes mains aussi. Je lève mes mains, je dis Allahu Akbar. Et je descends. Maintenant, je suis prosterné. Subhan Rabbi al-A'la wa bihamdi Subhan Rabbi al-A'la trois fois. Maintenant, je veux m'asseoir entre les deux prosternations. Je dis Allahu Akbar et je lève mes mains. Je lève mes mains aussi. Et je m'assois entre les deux prosternations. Maintenant, je suis assis entre les deux prosternations. Je dis Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Maintenant, je vais aller à la deuxième prosternation. Qu'est-ce que je fais? Je lève mes mains devant mes oreilles et je dis Allahu Akbar tout en étant assis. Je lève mes mains, je dis Allahu Akbar. Et je descends vers la prosternation. Et ensuite, je vais dire Subhan Rabbi al-A'la trois fois. Et maintenant, je me prépare pour me lever à la deuxième raka. Qu'est-ce que je fais? Je lève mes mains devant mes oreilles, je dis Allahu Akbar et je me lève pour la deuxième raka. Et avant de me lever, bien sûr, je m'assois, je fais une position qui s'appelle Jilsat al-Istiraha, qu'on va voir Inch'Allah Ta'ala tout à l'heure. Tayyib. Après cela, maintenant le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit Allahu Akbar, il a levé les mains de temps en temps, pas tout le temps, il a levé les mains, il s'est assis entre les deux prosternations. Comment doit-on s'asseoir? Il étendait son pied gauche le long de la terre. C'est très dommage, c'est très dommage que le paltok par exemple ne donne pas l'avantage. Il donne l'avantage d'écrire, il ne donne pas par exemple l'avantage de donner une photo. Une photo, on peut montrer par exemple, voilà la position, exactement comme on doit faire. Car des fois, on parle aux gens, ils entendent, mais ils ne conçoivent pas exactement, c'est comme on l'image. Non. Peut-être qu'il va faire son pied, il va le mettre d'une façon, d'une position fausse. Lakin, c'est tout ce qu'on peut faire. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, maintenant, va s'asseoir entre les deux prosternations, il étend son pied gauche le long de la terre et se repose dessus, détendu le pied et détendu le pied gauche, les orteils qui vont vers l'arrière, vers l'ouest, les orteils ne sont pas vers l'avant, mais ils sont de l'autre côté, vers l'ouest, et il s'assoit sur son pied. Il s'assoit sur quoi? Sur son pied gauche. Naam. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu te prosternes, prosterne-toi fermement. Barakallahu fik, ort. Prosterne-toi fermement, puis quand tu te relèves, repose-toi sur ta cuisse gauche. 541. Ahmed et Abu Daoud, Bixnet Sahih. Repose-toi sur quoi? Sur ta cuisse gauche. Naam. Beaucoup de gens, yani, s'assoient n'importe comment. Beaucoup de gens s'assoit n'importe comment. Il y a même des gens qui s'assoient en faisant beaucoup de fautes. Naam. Lorsqu'ils s'assoient, ils font beaucoup de fautes. Mal SF. Naam. Donc, la vraie position, c'est quoi? C'est que quand tu t'assois sur ton pied gauche. Naam. Tu t'assois sur la cuisse gauche, le pied gauche tendu, les orteils vers l'arrière, mais son pied droit, hein, son pied droit, le pied droit, on doit le tenir droit. Le pied droit, on doit le tenir droit en dirigeant les orteils vers la Qibla. Donc, on s'assoit sur le pied gauche, les orteils dirigés vers l'ouest, pas vers la Qibla. Quant au pied droit, le pied de la droite, on le laisse droit vers l'arrière, droit, avec les orteils qui vont du côté de la Qibla, les orteils pliés vers l'avant, afin que ça soit vers la Qibla. Il est possible aussi, lorsqu'on s'assoit entre les deux prosternations, il est possible de temps en temps de faire l'iqa'a, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pratiqué l'iqa'a de temps en temps. C'est un hadith qui se trouve dans Sahih Muslim. Le iqa ici n'est pas le iqa qu'il a interdit de faire, le iqa du chien et du... c'est pas celui-là. Maintenant, il y a un autre iqa qui est sunnah. Il faut le faire de temps en temps. Il y a des choses qu'il faut faire de temps en temps. Comme j'ai dit, de temps en temps, on fait une prière en levant les mains. À chaque fois qu'on dit Allahu Akbar, quand on descend, on se lève. Maintenant, il y a un autre sunnah. De temps en temps, quand on s'assoit entre les deux prosternations, on s'assoit sur les talons. Naam, on pose nos deux fesses sur les talons. C'est-à-dire, nos pieds sont levés. Hein, on s'assoit sur les talons avec les orteils qui sont pliés vers la Qibla. Naam, on ne peut pas bien sûr joindre les talons. On ne peut pas les joindre pour s'asseoir dessus. C'est très difficile. Mais on les laisse un peu écartés et on s'assoit dessus. Avec quoi? Avec les orteils dirigés vers la Qibla. N'oubliez pas cette sunna que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de temps en temps et qui se trouve dans Sahih Muslim, le livre le plus juste, le plus vrai, après Sahih al-Bukhari. Naam. De l'obligation d'être à l'aise entre les deux sujets. Maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouve assis entre les deux sujets. Naam. Qu'est-ce qu'il faisait? Il, sallallahu alayhi wa sallam, se détendait jusqu'à ce que chaque os soit revenu à sa place appropriée. Naam. Il se détendait jusqu'à ce que chaque os se trouve, yani, revienne à sa place appropriée. D'ailleurs, il a dit à celui qui faisait la salat incorrectement, il lui a dit, la prière de quiconque parmi vous n'est pas complète tant qu'il n'a pas fait cela. Naam. Tant qu'il n'a pas fait cela. Abu Daoud et le Hakim qui l'a authentifié et Dahabi l'a confirmé. Donc, quand on s'assoit entre les deux prosternations, soit on s'assoit sur les deux talons de temps en temps, soit la plupart du temps on s'assoit sur le pied gauche, c'est-à-dire la cuisse gauche. Mais on doit attendre jusqu'à ce que les os reviennent à leur place. Ensuite, on descend pour la deuxième prosternation. Naam. Il l'a rallongé des fois. Ce moment où il restait entre les deux prosternations. Des fois, il l'allongeait au point qu'il soit aussi long que la prosternation. Et parfois, il demeurait ainsi, assis, yani, entre les deux prosternations, il demeurait assis assez longtemps jusqu'à ce que quelqu'un dise il a oublié. Non, des fois, il restait peut-être 5 minutes, peut-être 10 minutes, en étant assis entre les deux prosternations. Jusqu'à ce que, s'il y a quelqu'un derrière lui, il dit, subhanallah, il a dû oublier. Peut-être qu'il est en train de faire le tashahhud. Alors que non, il le faisait, que la paix soit sur lui, il le faisait exprès. Naam. Maintenant, puisqu'il faut s'asseoir entre les deux prosternations, on s'assoit sur le pied gauche, la cuisse gauche, comme je viens de dire, ou bien sur les talons, alors qu'est-ce qu'on doit dire pour rester assez longtemps? Maintenant donc, les évocations entre les deux sijdas. Les évocations qu'on doit dire entre les deux sijdas. Tayyib. La hawla wa la quwwata illa billah. Dans cette position, entre les deux sijdas, le prophète alayhi salatu wa salam, naam, le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il faisait? Quelles sont les invocations qu'il disait entre les deux sijdas? Il disait, premièrement, de toute façon, aujourd'hui, je m'excuse que vous ne voyez rien affiché. Vous entendez seulement, vous ne lisez rien. Car la sœur qui devait copier-coller a des problèmes de connexion. Donc, Miskina, je ne sais pas combien de jours elle a travaillé sur ça. Et maintenant, elle se trouve déconnectée. Et donc, elle ne peut rien vous coller. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera des ajr, des récompenses de s'être fatigué. Naam. Premièrement, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Allahumma rabbi khfirli, Allahumma rabbi khfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. نعم اللهم ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهديني وعافيني وارزقني. نعم ومع عبد الله si tu vois Oum Youssouf qui rentre tu me fais signe pour que je lui enlève le point pour qu'elle puisse coller des évocations. طيب je disais je répète qu'est-ce qu'il disait اللهم اغفر لي pardon ربي اغفر لي اللهم ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهديني وعافيني وارزقني. C'est-à-dire, oh Allah, dans une autre version, oh mon Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, renforce-moi, élève mon rang, guide-moi, assure-moi le salut, soutiens-moi. Tout ça, il le disait entre les deux prosternations. Je répète, Allahumma Rabbi Khfirli, oh mon Seigneur, pardonne-moi, warhamni, fais-moi miséricorde. Wajburni, renforce-moi. Warfa'ni, élève mon rang. Wahdini, guide-moi. Wa'afini, assure-moi le salut. Warzuqni, soutiens-moi. Tout ça, il le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entre les deux prosternations. Il disait également, yani, à la place de cela, de temps en temps, il disait autre chose. Qu'est-ce qu'il disait? Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Donc ceux qui ne peuvent pas dire l'autre doua qui est assez long, ils se suffisent à ce doua qui est très simple et très court. Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Je répète, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Et ils le disent au moins deux fois. Mais il est possible de le dire trois fois et plus. Ô Seigneur, pardonne-moi. Naam. Rawa ibn Majah avec un bon sanad. Naam. Ô Seigneur, pardonne-moi. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, s'il souhaite, il peut le répéter trois fois. Naam. S'il souhaite, il peut le répéter trois fois ou bien dire, ô Allah, pardonne-moi. Yani Allahumma ghfirli warhamni wahdini et comme ça. Donc cette Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli, il peut le dire minimum deux fois. Mais il peut le dire trois fois. Et j'ai lu Cheikh al-Islam qui a dit il peut le dire plus de trois fois. Naam. Yani s'il peut le dire 10 fois, 15 fois, il est libre. L'essentiel c'est que qu'il le dise de façon à ce qu'il attende que ses os reviennent vers les articulations. Donc qu'est-ce qu'on dit entre les deux soujoud? Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Là on fait la deuxième prosternation. Tu attends que les os reviennent à leur place. Et celui qui connaît l'autre doua, il le dit de temps en temps. Allahumma Rabbi khfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, wahdini, wa'afini, warzuqni. Tayyib. La seconde sajda. Maintenant, il a dit Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Il va faire la deuxième prosternation. Il va faire la deuxième prosternation. Puis il disait le takbir et se prosternait pour la seconde fois. Bukhari Muslim. Il disait le takbir et se prosternait pour la deuxième fois. Il a également ordonné à celui qui priait de façon incorrecte de faire ainsi. Car il lui a dit, ensuite tu dis, Allah est le plus grand, Allahu Akbar. Et tu te prosternes jusqu'à ce que tes articulations soient détendues. Et fais cela dans toute ta prière. Donc, il dit Allahu Akbar et il se prosterne pour la deuxième prosternation. Et il reste ainsi prosterné jusqu'à ce que les articulations soient détendues. Et parfois, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith de Abu Daoud avec Sanad Sahih, des fois, en descendant, faire la deuxième prosternation, tout en disant Allahu Akbar, il levait les mains, comme ça, jusqu'aux épaules ou jusqu'aux oreilles, sans les toucher, il dit Allahu Akbar, et il descend, il fait la deuxième prosternation. Naam, je lui ai enlevé le point rouge. Tayyib. Il exécutait cette sijda exactement comme il exécutait la première. Puis il relevait la tête tout en disant le takbir. Maintenant, il veut se lever. Il veut se lever pour la deuxième raka. Il relevait la tête tout en disant le takbir, Allahu Akbar. Hein? Comme il a dit à celui qui se trompait dans la salat, fais cela dans toutes tes inclinaisons et toutes tes prosternations. Car si tu fais cela, ta prière sera complète. Et si tu négliges quoi que ce soit de ceci, tu seras déficient dans ta prière. 557. Ahmed et Tirmidhi, qui l'a authentifié, il a dit hadithun sahih. Parfois, il levait ses mains en disant le takbir. Ça, on l'a vu. Maintenant, il veut se lever. Il veut se lever pour la deuxième raka. Il est prosterné. Il veut se lever. Il dit Allahu Akbar. Et il lève les mains aussi. Parfois. On l'a vu tout à l'heure. Donc, de temps en temps, on lève les mains en se relevant pour la deuxième rakat. Mais on lève les mains en bas, quand on est en bas. Naam. Maintenant, on va se relever pour la deuxième rakat. On va se relever. Il y a une sunna ici, que vous connaissez, inshallah ta'ala. Et c'est juste pour que. C'est juste un petit rappel. Qui s'appelle quoi? Elle s'appelle la posture du repos. Elle s'appelle Jilsat al-Istiraha. Naam. Jilsat al-Istiraha. Naam. Ça s'appelle la posture du repos. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait. La posture du repos. Naam. Jilsat al-Istiraha. Naam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'assuyait sur son pied gauche jusqu'à ce que chaque os reprenne sa position. Al-Bukhari et Abu Daoud. Al-Bukhari et Abu Daoud. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de se lever, pour se lever à la deuxième rakat, avant de se lever, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit un peu. Il s'assoit un peu avant de se lever pour la deuxième rakat. C'est-à-dire, je dis bien, après la deuxième prosternation. Il a fait une deuxième prosternation. Maintenant, il dit Allahu Akbar, il veut se lever pour la rakat. Avant de se lever, il va s'asseoir encore une fois. Il va s'asseoir encore une fois sur son pied gauche. Jusqu'à ce que chaque os reprenne sa position. Bukhari Abu Daoud. Jusqu'à ce que chaque os reprenne sa position. Oum Youssef, si tu peux, tu cliques sur bold. Sur le THADAC, tu cliques sur bold. Pour que ça soit un peu. Ça soit pas fin. Pour que l'écriture ne soit pas fine. Clique sur bold. Sur le T, ensuite sur bold. Attends, je vais voir. Non, T et bold. Non, pour que ça soit un peu. Tayyib. Qu'est-ce que j'allais dire? Non. Certaines personnes disent que cette posture s'appelle Jilsat al-Istiraha. Non, même ici dans le livre c'est écrit Jilsat al-Istiraha. Et même la sœur a écrit Jilsat, elle a écrit exactement ce qu'il y a sur le livre. En principe c'est avec I. Naam. Jilsa, pourquoi ça, car c'est une position. Mais avec le Fetha, Jilsa, c'est pour dire le nombre. Jilsa. 2 Jilsa, 3 Jilsa, 4. Quand c'est le nombre, on fait avec Fetha. Quand c'est, on veut montrer une position, Nheya, on dit avec Kasra. Normalement, c'est Jilsa. Jilsa, c'est l'Istiraha. Donc, la faute, c'est pas la sœur, la faute, c'est au livre ici. Al-Muhim, cette position, cette posture, avant de se relever, certains ulamas, et beaucoup de gens qui les suivent maintenant et qui les imitent aveuglement, disent que ça se fait pas. Ils disent ça se fait pas. Pourquoi on fait pas ça? Ils disent car le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a fait cette position que quand il a pris de l'âge. Non, quand il a pris de l'âge, il est devenu assez vieux sallallahu alayhi wa sallam. Ça lui était difficile de se relever comme ça. Alors il s'asseyait un peu pour prendre un peu de souffle et se relever. Non, c'est comme ça qu'ils disent. C'est ça leur délire. Et nous, on va leur répondre avec trois délits, Inch'Allah Ta'ala. Les délits ne sont pas ici dans le livre, mais Inch'Allah Ta'ala, je vous dirai qu'il y a trois délits, essayez de les apprendre, car à chaque fois que vous allez faire cette posture, il y a des gens qui vont dire pourquoi vous la faites. Là, on va leur répondre pourquoi on l'a fait, pourquoi on ne la fait pas, le prophète A.S. l'a faite. Il va te dire, certes, il l'a faite cette position. Mais quand il est devenu vieux, pourquoi il ne l'a pas faite quand il était jeune? Réponse, bi'idhna azza wa jal. Premièrement, la règle dans les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, quand notre prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une chose dans les adorations, la règle c'est quoi? C'est de le suivre dans cette chose, ou là c'est de trouver une excuse et de dire peut-être qu'il a fait cela quand il est malade, ou là il était vieux, ou là il était distrait, ou là. C'est quoi la règle? La règle c'est de le suivre. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أوصي أسوة حسنة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. نعم. يتبعوني. يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Donc la règle c'est que moi je suis le prophète عليه الصلاة والسلام, je fais comme lui. Surtout dans la prière dans laquelle il a dit priez comme vous m'avez vu prier. Donc s'il y a un débat entre deux personnes, une personne dit que le prophète alayhi sallam a fait cette position, cette posture à cause d'une excuse, et la deuxième dit que le prophète sallallahu alayhi sallam l'a faite pour qu'on le suive. Non. Qui c'est le plus juste? Celui qui dit on doit le suivre, parce que le fait de dire qu'il a fait cette chose pour une excuse, celui-là doit donner le dalil qui a fait sortir ce cas de la généralité. La généralité, c'est de suivre le prophète alayhi salam, surtout dans la prière, dans toutes les choses et surtout dans la prière. Donc toi qui as dit, surtout dans la prière, naam, donc toi qui as dit que il a fait cette posture à cause d'une maladie, à cause de la vieillesse et ça, donc donne-nous le dalil. Toi tu marches à l'encontre du dalil. Le Coran a dit on doit le suivre, et lui il a dit suivez-moi, surtout dans la prière. Donc il y a le premier dalil. Deuxième dalil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris cette salat à des gens qui sont venus rester chez lui quelque temps pour lui. Ils lui ont dit apprends-nous le din, et un de ces gens s'appelait Wa'il ibn Hajr. C'était un jeune. Quand je dis un jeune, peut-être qu'il avait 18 ans, peut-être 16, peut-être 15 ans. C'était un jeune, je ne connais pas son âge, mais un jeune. Il lui a appris la salat à lui, à son frère et aux autres gens. Ensuite, il leur a dit, allez chez vous et faites la prière comme je l'ai fait. Comme je l'ai fait. Naam, sallu, kamara et tumuni ou salli. Justement, ce hadith qui dit, faites la prière comme vous me voyez, comme vous m'avez vu la faire, justement, il l'a dit, le prophète Islam a dit ce hadith, justement, il l'a dit à ces jeunes-là, quand ils allaient revenir vers chez eux, il leur a dit faites-la et apprenez aux gens comment je faisais la prière, et faites la prière comme vous m'avez vu faire la prière. Donc on va leur dire ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appris la prière à un jeune. Pourquoi il lui a pas dit attention tu es jeune, ne fais pas cette position, ne t'assois pas entre les deux avant de te lever pour la rak'a, ne t'assois pas, monte directement, tu es jeune. Quand tu seras vieux, fais-la. Pourquoi il lui a pas dit cela? Et pourtant, il a appris la salat à un jeune. Il aurait dû lui dire, attention, ça se fait pas. Il faut que tu sois vieux pour que tu la fasses. Et c'est le deuxième dalil. Il est très très fort. Troisième dalil, que cette chose on l'a fait, inshallah ta'ala. Ou là, c'est pas un dalil, c'est disons, pour faire taire les autres. Ceux qui disent que cette chose ne se fait que lorsqu'il est vieux. On leur dit alors, est-ce que vous, si vous êtes sincère, et vous dites que cette chose ne se fait que quand quelqu'un, yani, soit âgé. Si vous êtes sincère, est-ce que vous, qui êtes assez âgé, ou là quand vous serez âgé, vous allez la faire? Ou là est-ce que vous ordonnez aux vieux quand vous les rencontrez, vous leur ordonnez de la faire? Vous leur apprenez cette sunna, vous leur dites faites-la comme le prophète la faisait quand il était âgé. Si vous êtes sincère, donc vous aussi quand vous êtes vieux ou là quand vous serez vieux, vous la ferez. Et dites aux gens maintenant, aux vieux, apprenez-leur la sunna que cette chose se fait. Donc cette position, comme je viens de dire, il s'assoit sur le pied gauche, mais dans cette position, attention, une remarque très importante, dans cette position il ne s'assoit pas sur les talons, comme entre les deux prosternations. Entre les deux prosternations, tu choisis, ou bien tu t'assois sur les talons, de temps en temps, ou bien tu t'assois sur le pied gauche. Mais dans cette position, tu t'assois seulement sur le pied gauche. Tu t'assois pas sur les deux talons et tu ne dis rien. Deuxième remarque, il n'y a aucune évocation à dire. Tu ne dis ni Rabbi khfirli, ni Astaghfirullah, ni Subhan Rabbil A'la, ni rien. Tu t'assois jusqu'à ce que tu sentes que les articulations et les os soient devenus à leur place. Là, tu te relèves pour aller à la deuxième rak'at bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, quand il va se relever pour la deuxième rak'a, quand il va se relever pour la deuxième rak'a, comment qu'il va faire? Ou bien, il va lever les mains directement et s'appuyer sur ses genoux pour monter, ou bien il va s'appuyer sur ses mains pour monter. Et le plus juste, c'est quoi? C'est que il va s'appuyer sur ses mains pour monter. C'est-à-dire, maintenant que je suis assis sur mon pied gauche et j'ai attendu un peu jusqu'à ce que mes os soient rentrés à leur place, maintenant je ne me lève pas directement comme ça, comme font certains gens, directement je m'appuie sur mes pieds et je me lève directement, c'est-à-dire sans toucher mes mains avec le sol. Non, je suis assis, je me lève directement comme ça. Non, c'est pas comme ça. Mais je vais vers l'avant, je me penche vers l'avant pour poser mes deux mains sur le sol. Je vais un peu vers l'avant, mon buste va vers l'avant. C'est comme si j'allais faire une autre prosternation. Mais c'est juste pour mettre mes deux mains sur la terre. Et ensuite, je me lève, il se levait, sallallahu alayhi wa sallam, se supportant avec les mains sur le sol. Se supportant avec ses mains sur le sol. Naam. C'est-à-dire exactement, il a dit ici, bon, hadith sahih, 560, c'est un hadith sahih, il a dit, il serrait ses poings. Il serrait ses poings, s'aidant de ses mains pour se lever. Littéralement, il a dit, littéralement, comme quelqu'un qui malaxe la pâte. Regardez nos mères et nos grands-mères autrefois, etc., quand elles faisaient le pain, jusqu'à de nos jours, quand elles font le pain à la maison ou elles font certains gâteaux là, elles malaxent. Elle malaxe la patte. Comment on la malaxe? En ayant les poings fermés. On a les poings fermés et on la malaxe avec nos poings fermés. Hein, on va laisser les traces des os. Les traces des os de nos doigts. Donc maintenant, quand tu vas te relever pour monter à la deuxième raka, tu vas poser tes deux mains sur le sol, fermées, avec poings fermés. Et avec tes deux poings fermés, tu vas pousser le sol pour te relever. Là, tu t'appuies sur tes deux mains qui sont fermées, tes deux poings, et tu te relèves bi'idhn azzawajal pour aller faire la deuxième raka'a bi'idhn azzawajal. Maintenant, la deuxième raka'a, on va passer à la deuxième raka'a. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il se levait pour la seconde raka'a, il débutait avec Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et je vous ai dit la fois passée, il a dit sans observer de pause. Sans observer de pause. C'est-à-dire, quand on se lève, on commence par Alhamdulillah. Qu'est-ce que ça veut dire on commence par Alhamdulillah? Ça ne veut pas dire on va lire directement Alhamdulillah. Non, mais il veut montrer que on commence par la sourate, yani Alhamdulillah. On commence par la sourate. Mais avant de commencer par la sourate, qu'est-ce qu'il doit dire? Al-Isti'ada. A'udhu billahi min shaitan rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi bismillah ar-rahman ar-rahim, et il va lire la fatiha, et il va lire la fatiha comme l'a montré Cheikh Al-Albani dans la note 563. La note 563, il a dit la pause niée dans ce hadith est peut-être la pause de la récitation de l'invocation. Naam, l'invocation d'ouverture, du'a al-istiftah, et ça n'inclut pas la pause de la récitation de l'isti'ada. Maintenant j'ai dit je lis le Fatiha, et ensuite quand je termine Fatiha je dis Amin. Ensuite je me prépare pour lire quelque chose après le Fatiha. Et vous connaissez la règle, si je vais lire quelque chose après le Fatiha, si je vais lire quelque chose, une sourate qui commence par le début, je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, car je vais ouvrir, débuter une nouvelle sourate. Si je ne vais pas débuter une nouvelle sourate, je vais lire du milieu d'une sourate, que je dis directement A'oudhou billahi minash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, au lieu de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Car Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en fait, on l'a dit quand on va commencer le Fatiha, et on l'a dit si on va débuter une nouvelle sourate. Si on ne va pas débuter, on dit A'oudhou billahi minash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, et on lit directement le Coran d'où on veut. Ensuite, il a dit, le Cheikh Adillah Rahmou, ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à celui qui priait de façon incorrecte de réciter le Fatiha dans chaque raka. Dans chaque raka. Naam. Il lui a dit ensuite fais cela dans toute la prière. Ensuite vient le premier tashahhud. Maintenant vient le premier tashahhud. Car dans la deuxième raka, il va faire exactement ce qu'il a fait dans la première raka. Il n'y a pas de différence. Mais maintenant, on va parler un peu du tashahhud. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait après avoir accompli la deuxième raka pour effectuer le tashahhud. Maintenant, une chose très importante dans le tashahhud. Comment s'asseoir dans le tashahhud? On veut faire le tashahhud, comment s'asseoir? Regardez la règle et apprenez-la bien. Barakallahu fikoum. Apprenez bien la règle, car beaucoup de gens font des confusions dans la façon de s'asseoir dans la tashahhud, dans le tashahhud. Car il y a deux sortes de s'asseoir, deux façons de s'asseoir dans le tashahhud, et ces deux façons, ce n'est pas nous qui choisissons, mais il y a une sunnah qui règle ces deux cas. Tayyib. Regardez la règle. Dans une prière qui a deux rak'at, telle que la prière du sobh, on prend la posture de muftarishan, c'est-à-dire comme lorsqu'on s'assoit entre deux prosternations. Quand on s'assoit entre deux prosternations, comment on s'assoit? J'ai dit ou bien sur les talons, ou bien on pose le pied gauche et on s'assoit dessus. Naam, c'est ça muftarishan. Maintenant, quand on va faire le tashahhud, on regarde la salat. Est-ce que c'est une salat qui a seulement deux rak'at, comme sobh? Si c'est une salat qui a seulement deux rak'at, on s'assoit pour le tashahhud sur le pied gauche, muftarishan. On ne s'assoit pas sur les talons. On s'assoit sur le pied gauche. On s'assoit sur notre cuisse gauche avec le pied droit tendu et les orteils du pied droit vers la Qibla. Quant au pied gauche, on s'assoit dessus et les orteils sont vers l'ouest, ne sont pas vers la Qibla. De même, il s'asseyait pour le premier tashahhud dans les prières de 3 ou 4 rakat. Naam. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand tu t'assois au milieu de la prière, alors sois détendu, écarte ta cuisse gauche et fais le tashahhud. Et Abu Huraira a dit, radiyallahu ta'ala anhu, mon ami intime, sallallahu alayhi wa sallam, m'a interdit l'accroupissement comme un chien. L'accroupissement comme un chien. Dans un autre hadith, il a dit, il interdisait l'accroupissement du diable. Tout ça, ce sont des hadiths sahih. Tayyib. Je reviens à la règle. Il y a deux façons de s'asseoir dans le tashahhud. Il n'y a pas trois façons. Il y a deux façons de s'asseoir dans le tashahhud. La première façon, c'est de s'asseoir sur le pied gauche, ou bien sur la cuisse gauche. Cette façon, quand est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait quand on a une prière qui a seulement deux rak'at. Par exemple, sobh. Par exemple, fajr. Par exemple, tu fais une nafila, où il y a seulement deux rak'at. Ou bien, tu fais ce tashahhud dans une prière qui a 4 rak'at ou bien 3 rak'at, mais tu le fais dans le premier tashahhud, pas dans le deuxième. Inch'Allah, vous m'avez compris? Ce tashahhud dans lequel on s'assoit sur le pied gauche ou bien sur la cuisse, on le fait seulement si on a une prière de 2 rak'at, ou bien on le fait si la prière contient 3 ou 4 rak'at, on le fait seulement dans le premier tashahhud. Dans le premier tashahhud, on s'assoit muftarishan, on s'assoit sur son premier, sur son pied gauche, pardon. Naam. Ensuite, quand il s'asseyait, maintenant, je me suis assis pour le tashahhud. Supposons que je sois dans salat sobh, ou bien que je sois dans le premier tashahhud du dhuhr, du asr, du maghrib, du isha, le premier tashahhud. Je m'assois sur mon pied gauche et le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaçait sa paume droite, regardez la paume droite sur sa cuisse droite. Je pose, je vais faire le tashahhud, je suis assis sur mon pied gauche, je pose ma paume droite sur ma cuisse droite. C'est-à-dire les doigts dirigés vers la Qibla. Les doigts sont dirigés vers la Qibla. Dans une autre version, il posait sa main droite, la paume, sur son genou. Il posait sa main droite sur son genou. Donc, conclusion, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand tu vas faire le tashahhud, tu es libre entre deux positions. Ou bien tu poses ta main sur la cuisse, un peu plus près du genou. Hein? Le genou n'est pas loin de moi. Ma main est sur la cuisse, à la fin de la cuisse. Mes doigts sont pointés vers la Qibla. Ou bien, c'est aussi sunnah, tu le fais de temps en temps, je pose ma main sur mon genou. Et dans ce cas, mes doigts sont dirigés vers où? Mes doigts sont dirigés vers mon tibia, vers le sol. Car ma main est sur les genoux, donc mes doigts sont en bas, sont dirigés vers le sol. Mais si je la pose sur ma cuisse, mes mains seront dirigées vers la Qibla. Les deux sont valables. Et qu'est-ce qu'il faisait? Et il plaçait l'extrémité, le had de son coude droit sur sa cuisse droite. Regardez, maintenant, ma main, je l'ai posée sur ma cuisse. La fin de mon coude, je ne le sépare pas de mes côtés. C'est-à-dire que mon coude est en train de toucher à mes côtés, disons mon flanc droit. Mon coude est en train de toucher. C'est comme si la signification est qu'il ne séparait pas ses coudes de ses côtés. Naam. Quand je fais le tashahhud, ma main droite est posée sur ma cuisse. Mais mon coude, il touche. Mon coude doit toucher mon côté. Je ne laisse pas mon coude, par exemple, avec un, mon bras levé. Mon bras levé et mon coude, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il est en haut, il est vers la droite, vers la gauche. Non. Mon coude, la fin de mon coude doit toucher quoi? Doit toucher mon côté. Mon côté. C'est pour ça que ma main, c'est pour ça que donc mon bras est, yani, il touche ma cuisse. Hein, pour que mon coude reste collé à mon côté, il faut que mon bras soit vraiment vers le bas, naam. Et il a interdit à un homme assis dans la prière et qui s'appuyait sur sa main gauche. Il a vu un homme assis dans la prière, en même temps, il s'appuyait sur sa main gauche comme ça. Il a posé sa main gauche, il s'appuyait dessus, peut-être pour faire le tashahhud. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ceci est la prière des juifs. Ceci est la prière des juifs. Bayhaqi al-Hakim l'a authentifié, Sahih, Zahabi l'a confirmé. Naam. Dans une autre version, ne t'assois pas de la sorte. Ne t'assois pas de la sorte. Ne pose pas ta main gauche à gauche comme ça et tu t'appuies sur elle. Non. Dans une deuxième version, ne t'assois pas de la sorte. Car en effet, c'est la manière de ceux qui sont châtiés. De ceux qui sont châtiés. C'est-à-dire ceux qui seront châtiés. Ahmed et Abu Daoud avec Sanad Hassan. Subhanallah al-Azim. Le prophète alayhi sallam nous a montré ici une position des gens de l'enfer. Les gens, quand ils seront en enfer, comment qu'ils vont être châtiés? Peut-être moi je croyais qu'ils sont debout, mais non, ils seront assis. Et exactement de cette manière, avec la main gauche, comme ça du côté gauche, du flanc gauche, comme ça penché, c'est comme ça qu'ils seront châtiés. Allah subhanahu wa ta'ala ou la fiya. Et dans une autre version, il a dit, c'est la posture de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. C'est la posture de ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithun sahih Abdul Razzaq et Abdul Haq dans son ahkam. Hadithun sahih. Naam. Le mouvement du doigt dans le tashahhud. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait sa paume gauche sur son genou gauche. Maintenant, on a vu que la pompe droite, on la pose soit sur le genou droit, soit sur la cuisse. Et le coude doit toucher à nos flancs, nos côtés. Le coude doit toucher. Et maintenant, ma main gauche, je pose quoi? Je pose ma paume gauche sur mon genou gauche. Et il serrait tous les doigts, il serrait tous les doigts de sa main droite. Maintenant, c'est avec la main droite que je vais faire le tashahhud. Qu'est-ce que je fais de mes mains? Qu'est-ce que je fais de mes doigts? Mes doigts, je vais les serrer. Les mains de la main droite avec laquelle je vais faire le tashahhud, je ne les laisse pas ouverts. Je vais serrer mes mains. Il pointait vers la Qibla avec le doigt adjacent à son pouce et le fixer du regard, c'est-à-dire le doigt. Naam. Le doigt, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait? Il pointait l'index. Naam. L'index, il le pointait vers la Qibla. Et la sunna, c'est quoi? C'est de regarder. Naam. Il le fixait du regard. Quand on fait le tashahhud, on ne regarde pas en face, ni à droite, ni à gauche. Et on regarde le doigt qui est en train de bouger, on est en train de bouger, et qui, yani, on a pointé vers la Qibla. C'est ça la sunna du tashahhud. On regarde, on fixe le doigt. Naam. Cheikh Al-Albani a dit, j'ajoute ici, il a dit, c'est une preuve que la sunna est de continuer à pointer et bouger le doigt jusqu'au teslim, le statut final. Car l'invocation va jusque là. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il levait son doigt et le pointait vers la Qibla, il le bougeait en faisant des invocations. Naam. Il bougeait son doigt en faisant ses invocations. Naam. Et il disait, il est sûrement plus dur, hein, ce doigt comme ça, yani, vers la Qibla, il dirigeait comme ça vers la Qibla en train de bouger, il a dit, il est sûrement plus dur contre le diable que le fer. Naam. C'est-à-dire, l'index. Le shaitan, quand il voit l'index comme ça, yani, vers la Qibla, en train de bouger, c'est plus yani, grave pour lui que si on le frappait avec le fer. Naam. Pourquoi? Parce que le fait, c'est quoi ça? C'est le tawhid. La ilaha illallah, yani, subhanallah al-azim, le doigt pointé vers la Qibla, le shaitan sûrement n'aime pas cette position. Il a dit aussi, les compagnons du prophète alayhi salatu salam avaient l'habitude de se rappeler mutuellement de pointer le doigt quand ils faisaient des invocations. Naam. Et le prophète alayhi salatu salam faisait cela dans les deux tashahhud. Dans les deux tashahhud, il pointait le doigt vers la Qibla et le bougeait. Et il vit un homme qui invoquait avec ses deux doigts, il lui dit « Ahed, Ahed ». Yani, un seul. Naam. En principe, c'est pas un seul. C'est-à-dire, Ahed, yani, fait l'unicité d'Allah. Yani, en ne pointant qu'un seul doigt. Naam. Ahed ici, c'est pas Ahed. Pas Ahad, un seul doigt, mais Ahad. Donc il a vu quelqu'un qui a pointé deux doigts vers la Qibla. Ou bien par exemple, l'index et celui du milieu. Ou bien il a par exemple pointé l'index de la main droite et l'index de la main gauche. Il lui a dit non, un seul. Donc la sunna, je reviens ici pour dire, la sunna c'est quoi? La sunna c'est de diriger l'index vers la Qibla en ayant les autres doigts fermés et serrés. Hein? On a les doigts serrés et fermés et on dirige l'index vers la Qibla. Il y a une deuxième sunna qui est authentique aussi. On peut faire des fois un cercle avec, en joignant le pouce et le doigt du milieu. Hein? Avec le pouce et le doigt du milieu, je fais un genre de cercle comme ça, parce que je les ai joints, et j'ai mon doigt, l'autre, l'index, qui est pointé vers la Qibla. Naam. Et, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le doigt et on ne regarde pas la qibla. Et le doigt, on est en train de le bouger doucement. Non, de le bouger doucement, un peu de haut en bas. Du haut vers le bas, on le bouge un peu tout en regardant notre doigt. Et n'oubliez pas ici que la sunna, c'est de fixer le doigt et de le bouger sans arrêt jusqu'à ce qu'on dise salam alaykoum. Pourquoi? Parce que certaines personnes ne lèvent jamais ce doigt. Moi, j'ai vu certaines personnes, je crois que ce sont les Ahnaf, je crois que ce sont la plupart ici des Indous, des gens de Bangladesh. Ils ne lèvent jamais le petit doigt. Au point où une fois, quelqu'un m'a dit, c'était pas ici, j'étais à l'Omra, quelqu'un m'a vu, il m'a dit, qu'est-ce que c'est ça? Tu lèves le doigt comme ça, on dirait que tu es en train de jouer. Le doigt, tu es en train de jouer. Parce que lui, il ne levait le doigt jamais, du début jusqu'à la fin. Mais d'autres qui croient qu'ils font mieux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne lèvent pas le doigt. Mais quand ils disent Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ils lèvent le doigt. Ils croient que ça se dit seulement ici. Et ceux qui lèvent ici le doigt se divisent en deux groupes. Un groupe, dès qu'il lève le doigt ici, il dit Ashhadu anna la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Abdu Rasulullah. Ensuite, il le descend pour dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Khlas, il le descend. Et le deuxième groupe, il continue. Il y a un deuxième groupe qui, après avoir dit Shahadu la ilaha illallah, il levait le doigt, il continue jusqu'à la fin, sans l'arrêter. Et la sunna, la plus vraie, la plus juste, et il n'y a pas une autre, c'est quoi? C'est, tu fais le tashahhud, tu lèves le doigt, tu le pointes vers la qibla, tu le bouges, tu le regardes du début jusqu'à la fin, jusqu'à ce que tu dises Assalamu alaikum wa rahmatullah. Même pendant les évocations de اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال tu es en train de toujours en train de bouger ton doigt car tu n'as pas encore dit السلام عليكم et c'est de la bid'a de s'arrêter au milieu de s'arrêter on bouge on bouge on bouge ensuite on arrive لا إله إلا الله شهدنا محمد العبد ورسول il arrête son doigt il l'arrête comme ça il ne laisse pas bouger il dit je suis dans le tashahhud ça c'est la bid'a. Il n'y a pas un arrêt là-bas. Du début à la fin, il n'y a pas d'arrêt. Il est tout le temps en train de bouger de haut en bas, doucement. Pas de haut en bas, yani en levant le doigt, en le descendant. Juste les phalanges. Les phalanges, on les fait bouger un peu de haut en bas, comme ça, jusqu'à ce qu'on dise Assalamu alaikum wa rahmatullah. Naam. Maintenant, je ne sais pas si je m'arrête ou là je rentre dans les formules du Tashahhud. De toute façon. Je crois que je vais m'arrêter ici. Non, je vais m'arrêter ici. Dans 10 minutes, inshallah ta'ala, on commencera les questions. Et pour que vous sachiez que il y en a beaucoup. Pour que vous sachiez que le prochain dars, c'est quoi? C'est les formules du tashahhud. Car beaucoup de gens croient quoi? Croient que le tashahhud, yani, on dit n'importe quoi. C'est pas on dit n'importe quoi. Beaucoup de gens mélangent. Ils mélangent une formule avec l'autre. Il fait rentrer cette formule avec l'autre formule, alors que ce n'est pas vrai. Car les compagnons ont dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprenait le tashahhud, yani les formules, comme il nous apprenait le Coran. Le tashahhud, tu dois l'apprendre par cœur, et non pas choisir et mélanger une chose à l'autre et dire n'importe quoi. Tu dois prendre une formule, il y en a beaucoup, dans ces formules. Tayyib. Allez, on va les dire très vite. On va les dire, si vous voulez, très vite. Naam. Regardez, la première formule, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, Naam. Il disait, At-tahiyyatu lillahi, wa salawatu wa tayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin, ashadu an la ilaha illallah, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أم يوسف، si tu as les formules, si tu les as pas, on arrête, on laisse Allah le dars prochain. J'attends quelques secondes. Si elles sont là, elles sont là. تحية لله والصلاوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب نعم نعم لاس ان شاء الله تعالى لا بروشان لاس ان شاء الله تعالى بروشان درس سيميو. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. On se rencontre inshallah ta'ala dans 10 minutes باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بكم حياكم الله. On commence inshallah ta'ala par les réponses aux questions. Je voudrais que vous sachiez que, comme vous savez, on commence par les questions qui ont rapport avec le dars. C'est-à-dire que celui qui lève la main, qui n'a pas un rapport avec le dars, ou au moins avec la salat, c'est pas la peine qu'il lève la main, mais qu'il envoie sa question. Si c'est un frère, il envoie à Hassan ou bien à Mohamed 54, ou bien si c'est une sœur, aux autres sœurs, Inch'Allah Ta'ala. Non. Et que chacun, Inch'Allah Ta'ala, pose une question pour laisser la place aux autres. Barakallahu fikum. Nahim. نف تفضل إن شاء الله تعالى مشكورا تفضل. السلام عليكم. pouvez-vous nous donner un conseil pour avoir de la concentration pendant la salat? Y a-t-il des livres qui parlent de cela? Puis-je enregistrer la réponse? Si tu veux enregistrer la réponse, je n'ai pas d'inconvénient. Je voudrais dire une chose. Le meilleur livre qui a parlé de comment faire pour avoir la concentration dans la salat, c'est le Coran. Naam, c'est le Coran. Car en fait, beaucoup de gens croient que la concentration dans la salat, c'est quelque chose qu'on peut faire venir comme ça facilement, sans effort, sans rien. Alors moi je veux dire, la concentration dans la salat, c'est un fruit d'effort. Quand tu fais des efforts, masha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va te permettre de cueillir ce fruit afin de rentrer dans sa maison, d'ouvrir sa porte et de rentrer avec un cœur plein de quoi? Plein de khushu'. Non, plein de concentration. Donc c'est un fruit de quoi? C'est quels efforts qu'il faut faire? Il faut s'éloigner au maximum des choses qui n'ont rien à voir avec la religion. Toute chose qui, si ça s'appelle l'ab ou l'ahu ou l'ahu, toutes ces choses-là vont empêcher le khushu' d'être dans ton cœur, et s'il est là-bas, ils vont le faire sortir. Naam. Regardez qu'Allah Ta'ala a dit, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ. Il a dit directement, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Subhanallah. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Ont triomphé ou l'ont gagné. Naam. Les croyants. Quel croyant? N'importe quel croyant. Celui qui fait la prière? Non. الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui ont la concentration dans la salat. Ce n'est pas ceux qui font la salat. Car on peut faire la salat en pensant au manger et au travail et à nos enfants. Non, il a dit ceux qui sont en la concentration dans la salat. Et à Allah, comment avoir la concentration? Troisième verset directement, والذين هم عن اللغو معرضون. Et ceux qui sont loin des futilités, des choses qui sont futiles, comme la musique, comme les jeux, etc. Alors, si tu veux avoir la concentration, mon frère, il faut, comme j'ai dit, bien se préparer, lire beaucoup de Coran, écouter des doros, s'éloigner au maximum des choses qui sont futiles, et Inch'Allah Ta'ala, tu verras que la concentration vient. Mais si quelqu'un passe son temps du matin au soir seulement à dire des choses qui n'ont aucun sens, et à s'asseoir seulement avec les gens qui parlent de futilité, de dunya et d'argent, etc., du matin au soir, celui-là, il est impossible qu'il ait quoi? Il est impossible qu'il ait la concentration. Et c'est pour ça, j'ai dit une fois, c'est pour ça que regardez par exemple, Salat al-Zohr, avant de la commencer, on fait 4 rak'at. Pourquoi on fait 4 rak'at avant de rentrer dans la salat? On l'a fait parce que Salat al-Zohr, on vient du travail. Quand on vient du travail, on a la tête et l'esprit avec le travail, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Donc, on ne peut pas rentrer directement dans la salat. Et on commence par 4 rak'at qui vont effacer la chose qui est en notre esprit et nous redonner quelque chose de nouveau. Car avant de rentrer dans le dhuhr, je viens de faire 4 rak'at où j'ai dit subhanallah, j'ai dit alhamdulillah, j'ai dit astaghfirullah, j'ai dit ceci, j'ai fait le dhikr, donc je suis inchallah prêt à rentrer dans la salat pour avoir un peu de khushu'. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Et c'est en ce sens que je vous ai dit une fois que par exemple si quelqu'un est en train de lire le Coran, ensuite il se lève et rentre dans la salat, par exemple le dhuhr, sa salat sera beaucoup mieux faite et sera, il trouvera beaucoup plus de concentration que celui qui par exemple était en train de voir un match de football et qui il a entendu l'iqama et il est rentré, il est allé à la mosquée, il est rentré dans la salat. Il y aura une grande différence entre les salats de ces deux personnes, une personne qui vient du Coran et va aller à la salat, une personne qui vient du football et va aller à la salat. Naam, l'autre, il s'est préparé, il a préparé le terrain, et l'autre, il ne s'est pas préparé. C'est pour ça que il va avoir beaucoup de difficultés dans sa salat, le deuxième. Beaucoup de difficultés. Il ne va penser qu'au match qu'il a laissé. Hein, il l'a toujours dans le cœur. Naam, il l'a toujours dans le cœur. Il va penser, est-ce qu'ils ont marqué, est-ce qu'ils ont ceci, est-ce que ceci, cela. Et il ne va pas faire la salat comme il se doit. طيب عبد الناصر تفضل والله سبحانه وتعالى أعلم الله أكبر جزاكم الله خيرا نعم seulement c'est du thé seulement c'est du thé. طيب عبد الناصر tu as écrit numéro 1 الحمد لله ça veut dire que tu prépares ta question inshallah تفضل. Youssouf, tu viens de dire que tu as une question. Pose la question pour ne pas perdre de temps. Youssouf, pose ta question. Abdou Nasser dit, je l'ai envoyé. Ça y est, je vais chercher un pour haut parce que je ne l'ai pas vu. Elle ne s'est pas affichée. Abdou Nasser, ta question ne s'est pas affichée. Donc, réaffiche-la le temps que je lise ce qu'a dit Youssouf. Assalamu alaikum, alaikum salam, rahmatullah. Cher, j'aimerais savoir si un enfant de 8 ans doit aller prier le maghrib à la mosquée accompagné de son père. Sachant qu'il y a un hadith qui dit qu'à 7 heures, il faut rentrer les enfants à la maison car les démons courent les rues. Naam. Le hadith qui parle des démons, etc., c'est pour les enfants qui restent dans la rue en train de jouer. Mais quand un père prend son enfant avec lui pour la prière, c'est faisable. Naam, ça c'est autre chose. Il est parti car il veut yani, apprendre à son fils comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, comment s'approcher de lui, comment yani, faire de sorte pour que la salat soit une chose importante à ses yeux et comme ça. Mais le shaitan, c'est avec ceux qui restent dans la rue en train de jouer. En train de jouer, au lieu d'être à la maison, à cette heure où l'obscurité est descendue. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ayyub 93. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permis de faire des doigts en français dans les prosternations ou d'autres positions? Naam. Est-ce qu'il est permis de faire des doigts en français dans les prosternations ou dans d'autres positions? C'est cette question que je devais chercher. Naam. Cette question que je devais chercher, et ça fait 2 ou 3 jours je suis en train de me dire il y a une question que je devais chercher, j'ai oublié c'était laquelle. Maintenant Abdou Nasser, tu viens de me souvenir que c'est celle-là la question que je devais chercher. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je te rendrai la réponse la prochaine fois, bi'idhna Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les langues. Et je ne crois pas que ça soit interdit pour quelqu'un qui ne connaisse pas l'arabe, yani de ne pas faire des doigts. Mais khair, Inch'Allah, je préfère te répondre avec un délil, c'est mieux. D'après moi, c'est possible. Mais je préfère être sûr, c'est-à-dire avoir des arguments, bi'idhna Allahi Azza wa Jal. Naam. Pour Salafia, pose ta question, Inch'Allah. Donc je vais noter la question ici, je vais la noter ici. طيب السلام عليكم. Pouvez-vous répéter ce qu'on doit dire entre les deux sujouds lorsqu'on est assis? Naam. طيب, je vais ramener vite le livre une seconde. Entre les deux sujouds bi'idna azza wa jall, j'ai dit que ceux qui ne savent pas, il y a quelque chose de très facile, c'est de dire Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Rabbi khfirli, Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. On dit comme ça 3, 4, 5 fois. Ça, c'est la plus facile, inshallah ta'ala. Que quelqu'un ne. Yani, c'est pas, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui dise j'ai pas pu apprendre celle-là. Taïb. Donc, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi. Rabbi khfirli, Rabbi khfirli. Ou bien. Allahumma. Non. Ou bien Allahumma khfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni. Je répète, ou bien le simple Rabbi khfirli Rabbi khfirli, ou bien Allahumma, entre parenthèses, si on ajoute Rabbi, ma'alish, Allahumma Rabbi, Allahumma khfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini. Je dis encore, on peut simplifier, dire seulement Allahumma khfirli warhamni wahdini warzuqni. On peut dire seulement ces quatre. Il y a un hadith sahih où il y a seulement les quatre. Allahumma khfirli, ensuite warhamni wahdini. Remarquez ici Allahumma khfirli warhamni wahdini warzuqni. Non. Remarquez dans le ce qui est écrit ici. Regardez ce qu'il n'y a pas entre parenthèses. Ce qu'il n'y a pas entre parenthèses. C'est-à-dire, Allahumma, ensuite, irfirli, Allahumma irfirli, warhamni, ensuite on saute, wahdini, et warzuqni. Warzuqni que la sœur n'a pas écrit. Ces quatre choses, on peut les dire. C'est un autre hadith. Naam. Plus ce qu'il y a entre parenthèses, ça veut dire on peut l'ajouter. Tayyib. C'est à qui le tour, inshallah ta'ala. Om Ayyub 93. Tafadlali. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Que conseillez-vous à quelqu'un qui n'arrive pas à être assidu dans ses prières en général? Quelqu'un qui n'est pas assidu dans ses prières en général, je lui conseille, Naam, ce que je lui conseille, c'est premièrement qu'il sache que quoi? Il sache que la salat, c'est la chose la plus importante. La plus importante, après quoi? Après, yani, shahadatayn, Naam, dans les adorations de l'acte. Et que, si quelqu'un n'est pas assidu dans les salats, c'est très grave pour lui. Car, Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il nous demandera demain, c'est la salat. Il nous dit, montrez-moi votre salat. C'est-à-dire, est-ce qu'elle était avec assiduité, etc. ou pas. Naam. C'est la première des choses dont il va nous questionner. Deuxièmement, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, vous connaissez tous le verset. Je crois que personne ne va dire, moi ce verset je ne le connais pas. Un petit enfant, vous lui demandez ce verset, il va le connaître. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, une seconde, je vais l'écrire, c'est mieux. Non, je vais l'écrire, c'est mieux pour vous rappeler encore plus. Voyez. Dans sourate Al-Ma'un, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Tout le monde connaît ce verset. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وَيْلٌ, c'est quoi? C'est un châtiment. Donc il y aura un châtiment Ya Allah, pour qui ce châtiment? Pour ceux qui font la prière, les musallins. Ce n'est pas pour ceux qui ne font pas la prière. Non, pour ceux qui font la prière, il y a un châtiment grave. Naam, alim. Qui c'est? Tout le monde, celui qui fait la prière, il a ce châtiment? Non. Alladhina hum an salatihim sahun. Pour ceux qui sont distraits de leur salat. Ils ne sont pas assidus. Les ulama ont dit, il fait salat al-dhahr avec l'asr. Il fait l'asr avec le maghrib. Il fait le maghrib avec Isha. Il fait Isha le matin. Celui-là, on lui dit, il y a un grand châtiment qui t'attend demain. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas la salat à l'heure comme Allah Ta'ala veut. Alors qu'en est-il pour ceux qui ne la font pas du tout? Il y a certains qui ne la font pas du tout. Tayyib, d'ailleurs, dites-moi si vous étiez en train de m'entendre ou là je répète. Car je viens de remarquer que le micro n'était pas... Je n'avais pas appuyé sur le micro. Vous m'entendiez? Barklaufik. Non, Barklaufik. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat. Non, malheur à ceux-là. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de celui qui ne l'a fait pas? Celui qui ne l'a fait pas. Et un autre verset, je vais vous le donner. Oum Abdillah va le chercher en français, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde, je vais me rappeler comment on dit ce verset. نعم فخلف من بعدهم خلفون أضاعوا صلاة تبعوا شهوات نعم فخلف من خلفهم طيب regardez maintenant ce verset je vais le copier نعم طيب une seconde inshallah celui-là 59 verset 59 sourate Maryam Maryam 19 verset 59. Regardez ce verset, qu'est-ce qu'il dit? فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Sourate Maryam verset 19. نعم. Sourate Maryam c'est verset 59. Qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit après cela, يعني sont venus d'autres gens. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Adha'u salat. Ils ont fait perdre leur salat. Pourquoi? Ittaba'u shahawat. Parce que, à cause des passions. Car il n'y a pas quelqu'un qui laisse une salat si ce n'est pas à cause d'une passion. À cause de l'argent, à cause du téléphone, à cause de, il est en train de voir un film. Il y a toujours une passion. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouveront en perdition. Subhanallah. Il y a un châtiment qui les attend. Ghiya, c'est un châtiment aussi en enfer qui les attend. Comme ça on dit l'ulama. Donc, quand quelqu'un sait ces choses-là, quand il sait que la salat, c'est la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala va nous demander, c'est sûr que quoi? C'est sûr que il fera des efforts pour faire la prière à l'heure. Surtout s'il sait que les meilleures actions, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire la prière à l'heure et encore mieux à son première heure. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tayyib, Mohamed pose ta question inshallah. Mohamed 54 pose ta question. J'ajouterai une chose. Je viens de me rappeler une chose. J'ajouterai là une chose, Inch'Allah Ta'ala, c'est quoi? Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi il veut qu'on fasse la prière à l'heure? Pourquoi? C'est quoi la hikmah? La hikmah, c'est que quand tu entends Allahu Akbar, quand tu entends Allahu Akbar, est-ce que la salat est vraiment importante pour toi au point que tu délaisses toute chose car tu as attesté que Allah c'est le plus grand ou bien c'est seulement du bluff? Non, c'est seulement du bluff. Car Allah Ta'ala veut que pour aller vers lui, tu dois délaisser tout toute cette dunya, tout ce bas monde. C'est pour ça qu'il dit Allahu Akbar. Ça veut dire Allah est plus grand que tes enfants, que ta femme, que ta voiture, que ton travail, que ton manger, que tout. Allahu Akbar. Tu laisses tout cela et tu vas à la prière. Sauf où on a des excuses, comme par exemple le manger, etc. On a des excuses. Sinon, ça, c'est une preuve que si je peux laisser toutes les autres tentations et aller vers Allah faire la prière, ça c'est un délit que j'ai vraiment l'iman. Sinon, ça veut dire que j'aime ma voiture plus que Allah, ou j'aime mes enfants plus que Allah, etc. Parce que la preuve, à cause d'eux, je n'ai pas fait la prière ou l'ayadu billah. Naam. Tayyib, une seconde, inshallah ta'ala, téléphone. Tayyib, on continue. Pour l'imam de la mosquée prie avec un long kamis. Et, alhamdoulilah, on lui a montré des dalils avec des authentiques, avec des hadiths authentiques, que le messager alayhi sallam a dit que Allah ta'ala n'accepte pas de prière celui qui laisse traîner son vêtement. Il répond, je cite, c'est juste le vêtement de prière qui est lent, mais je ne sors pas avec mon kamis. Il ne frotte pas à terre, il n'est pas sale. Et en plus, je ne le laisse pas traîner par orgueil, donc je ne rentre pas dans le hadith, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Yani, c'est quoi? Il n'y a pas de question ici. Cet imam se trompe. Tout homme doit lever le kamis au-dessus des chevilles, qu'il soit dans la salat ou hors salat. Mais, s'il n'y a pas un autre imam, et si cet imam, on est forcé de faire la prière derrière lui, car ce n'est pas nous qui l'avons placé, mais c'est l'État par exemple, ou ce sont d'autres gens qui l'ont placé, tu fais la prière derrière lui, et c'est lui qui a les péchés. C'est lui qui a les péchés, et pas toi. Et ce n'est pas à cause de quelqu'un comme ça qu'on laisse la prière à la mosquée pour la faire à la maison. Non, s'il y a une autre mosquée plus près, on va chez quelqu'un qui a un kamis au-dessus des chevilles. S'il n'y a pas de mosquée, on fait derrière lui et c'est lui qui a des péchés. Naam. Oum Abdillah 8, tafadlali. Salam alaikum. À quel moment exactement doit-on lever les mains quand on se lève pour la troisième raka'a Après le tashahhud. Naam. L'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, que quand on est assis et qu'on veut maintenant se lever pour aller vers la troisième raka'a. C'est-à-dire, on a fait le tashahhud, et maintenant, on veut se lever pour aller faire la troisième raka'a. L'avis le plus juste, Inch'Allah ta'ala, c'est quoi? C'est de dire Allahu Akbar en levant le main tout en étant assis. Je suis assis, je dis Allahu Akbar et je me lève. Et si je veux, je lève les mains en même temps. Car le plus essentiel, c'est quoi? Le plus essentiel, c'est de dire Allahu Akbar. Et lever les mains avec Allahu Akbar, c'est sunnah. Donc, l'avis le plus sûr, le plus juste, c'est quand on est assis, on dit Allahu Akbar et si on veut, on lève les mains avec et ensuite on se lève. Car il est dit dans le hadith qui est rapporté par Abu Daoud Tayalisi et Cheikh Al-Albani a dit hadith en sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا أراد أن يقوم كبر ثم قام ثم إذا أراد أن يقوم كبر ثم قام. Le prophète Islam, s'il voulait se lever pour la troisième raka, il disait Allahu Akbar, ensuite ثم ensuite il se levait. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent d'abord, ils se lèvent, ils se mettent bien droit, ensuite ils disent Allahu Akbar pour commencer la troisième raka. Alors ça c'est faux. Il dit Allahu Akbar assis, ensuite il se lève. Pardon une seconde, Inch'Allah le téléphone, une seconde. Tayyib, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Salama, je t'ai enlevé le point rouge tout à l'heure. Je parlais au téléphone et je t'ai enlevé le point rouge pour que tu mettes ta question, Inch'Allah. Mais tu n'as pas compris, ma'alish. خير إن شاء الله. أم سلمة Assalamu alaykoum. Wa alaykoum salam. Je voudrais savoir si vous avez la réponse sur la femme qui prie en commun avec d'autres femmes et la sutra. Salama, est-ce que tu parles de la femme qui, par exemple, si elle voit quelque chose, est-ce que c'est ça la question? Est-ce que c'est elle qui avance ou là c'est le groupe qui avance? Si c'est ça la question, dis-moi numéro 1. Naam, naam. Naam, j'ai la réponse, inshallah ta'ala. Elle avance elle seule, elle seule. Naam, j'ai téléphoné à mon frère et mon ami, Cheikh Abdel Malik Ramadani, hafidhahullah. Et je lui ai posé cette question, on avait discuté de beaucoup de choses, et entre autres cette question. Il a dit que c'est elle seule qui avance. Donc c'est pas tout le groupe. C'est seulement elle qui avance, bi'idhnillahi azza wa jal. Naam. Aboul Jannah, tafadhal. Et les autres, si vous avez des questions, vous me dites que vous avez des questions, inchallah. Fiki barakallah. Tayyib. Abdul Nasser qui m'a posé la question de est-ce que, avant de répondre à Ahlul Jannah, qui m'a posé la question de est-ce qu'on peut faire des doigts en français? Et j'avais dit que je donnerai, inshallah ta'ala, une réponse. Naam. Maintenant, on vient de m'envoyer le lien, inshallah ta'ala. Je dois voir d'abord dans la liste, si tu es dans la liste. Naam. Si quelqu'un voit Abdul Nasser, qui me le dit, s'il est dans la liste. Abdul Nasser, barakallahu fik, si tu es là, lève la main. Lève la. Jazakallahu khair. Naam. Écoute, inshallah ta'ala, la réponse. Hein. C'est une question qui a été posée au comité de fatwa permanent, dont les membres sont Abdullah ibn Radian, Abdelrazak Hafifi, Abdelaziz ibn Baz, les trois. Alayhim, yani, hafidhahum Allah, alayhim rahmatullah. La question c'est, est-il permis d'invoquer Allah en anglais? Quand je dis en anglais, ça veut dire en français, n'importe quoi. Le comité a répondu, il est permis à une personne d'invoquer Allah le Tout-Puissant dans la langue qu'elle connaît. Que ce soit en arabe, en anglais, en ourdou ou toute autre langue, car Allah a dit لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Et il a dit فاتقوا الله ما استطعتم. Craignez Allah donc autant que vous le pouvez. Naam. Voilà, inshallah ta'ala, la réponse, akhi karim. Naam. Walhamdulillah, c'est comme j'ai dit. Naam, c'est logique. Il est impossible que quelqu'un, je ne sais pas, un Allemand, un Chinois, qui ne connaisse rien de la langue arabe, donc il va rester muet toute sa vie, il ne va pas faire un doua. C'est impossible. Il fera les doua avec la langue qu'il connaît. Bi'idnillahi subhanahu azza wa jal. Naam. Donc Ahlul Jannah a dit, Assalamu alaikum ya Sheikh, alaikum salam. Tout à l'heure vous avez expliqué la posture du repos après le deuxième sujoud. Quand je parle de cette posture autour de moi, les gens me disent qu'il y a plusieurs avis. Et d'autres hadiths qui disent qu'il est préférable de se relever directement. Est-il vrai, barakallahu fikum? Ce n'est pas vrai. Il y a des avis, certes, mais il n'y a aucun hadith, aucun, qui dit qu'il est préférable de se lever directement. Il n'y a pas un hadith comme ça. Celui qui t'a dit comme ça, ou bien c'est un jahl, c'est un ignorant, ou bien il t'a menti. Mais s'il t'a dit qu'il y a des avis, dis-lui certes, sah. Il y a des avis. Mais quand il y a des avis, le croyant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, il y a des avis et je choisis ce que je veux, je suis libre. Ou là, il dit, on prend les avis et on les compare avec le Coran et la Sunna. Et la compréhension des self-salah. C'est comme ça que fait le vrai croyant. Donc, moi, qu'il y ait des avis ou pas, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Tant que j'ai un hadith sahih qui dit quoi? Qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette posture et que quand il a appris à Wa'il ibn Hajr, il lui a appris salat, yani jilsat al-istiraha, inshallah ta'ala. Naam. Alif lam mim, tafadhal. Une seconde, Alif Lamim, je suis en train de chercher quelqu'un dans la salle. Une seconde. Assalamu alaikum, alaikum salam, rahmatullah wa barakatuh. Hayyak Allah, Allah yhayyik. Une personne m'a vu prier après la prière de Jumu'ah, vendredi. Elle m'a dit qu'elle avait entendu l'imam en Algérie leur dire qu'après la salat, il est interdit de prier après l'imam. Qu'il va aller prier chez soi. Est-ce vrai ce qu'on m'a dit? Non, ce n'est pas vrai ce qu'a dit cet imam. Non, ce n'est pas vrai ce qu'a dit cet imam. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque veut faire la prière après Jumu'ah, qu'il fasse 4. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, on l'a vu faire des fois 2, des fois 4. Naam. Donc, le plus juste, ce n'est pas comme a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a dit, si on fait à la maison, on fait 2. Si on fait à la mosquée, on fait 4. Le plus juste, c'est que tu es libre. Tu veux 4 à la maison, ou les 2 à la maison, 4 à la mosquée ou 2 à la mosquée. Tu es libre. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est quoi? Si on ne peut pas faire la salat dans la mosquée jusqu'à ce qu'on parle avec quelqu'un ou bien on sort et on revient. Voilà ce que l'imam peut-être a voulu dire et il est rentré en confusion. Il est interdit pour quelqu'un qui a fait la Jumu'ah de faire la nafila, sans qu'il parle ou bien sans qu'il croit ou bien sans qu'il sorte de la mosquée et revienne, pour celui qui veut faire la nafila dans la mosquée. Et certains ulama ont dit, ce n'est pas obligé de parler. Si tu fais le tasbih, subhanallah, 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 après la salat, c'est comme si tu avais parlé. Mais Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, n'est pas de cet avis. Car lui, quand il voulait faire la salat, la nafila, après la Jumu'ah dans la mosquée, il appelait son valet qui travaillait chez lui. Et quand le valet venait vers lui, lui disait, qu'est-ce que tu voulais? Abdullah ibn Abbas lui répondit, non, c'est juste pour que je parle. Yani, je n'ai pas besoin de toi. C'est juste pour parler avec quelqu'un. C'est juste pour faire la prière. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Abdul Haq. Assalamu alaikum, wa alaikum salam, wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que pour le premier tashahhud, on peut avoir la position que l'on a entre deux prosternations lors de la première rak'a? Attendez, pour que je comprenne, il faut bien méditer ce qu'elle veut dire. Est-ce que pour le premier tashahhud, on peut avoir la position que l'on a entre deux prosternations lors de la première raka? Naam. Pourquoi spécialement lors de la première raka? Pourquoi spécialement tu as dit lors de la première raka? Toujours, entre deux prosternations, on ne doit faire que l'une des deux choses. Ou bien on s'assoit sur les talons, et cette chose on la fait de temps en temps, ou bien on s'assoit sur le pied gauche, la cuisse gauche. Et c'est ça ce qu'on doit faire le plus de temps. Donc ici la question, est-ce qu'on peut avoir la position que l'on a entre deux prosternations? Naam, pour le tashahhud, si c'est un premier tashahhud, si c'est pas le deuxième tashahhud, si c'est le premier ou bien le tashahhud de salat subh, j'ai dit tout à l'heure que c'est comme ça qu'on devait s'asseoir. On doit s'asseoir sur la cuisse gauche. Comment s'asseoir sur la cuisse gauche? Attendez, je vais m'asseoir pour voir comment vous expliquer. Naam. Comment s'asseoir sur la cuisse gauche? Naam. De toute façon, quand le livre a dit on s'assoit sur la cuisse gauche, c'est un peu difficile. Tu as raison de poser cette question car c'est ambigu. Comment, subhanallah al-adim, la cuisse qui se trouve du côté yani haut, comment se fait-il qu'on puisse s'asseoir sur elle? C'est impossible. Donc, c'est-à-dire, avec notre cuisse, le côté bas, hein, c'est pas le côté qui est en face de nous, le côté bas de la cuisse, on le pose sur notre tibia, je m'assois avec ma cuisse du côté bas, je m'assois sur mon tibia. Sur mon tibia, c'est-à-dire tibia, ce n'est pas le côté qui est en face de moi, le côté qui est derrière, derrière mon pied, le tibia de derrière, derrière mon pied, cette partie du tibia, je m'assois dessus avec ma cuisse. Je pensais qu'il suffisait de s'asseoir sur le talon pour l'ombre. Non, j'ai dit que pour le teshahud, on ne s'assoit pas sur le talon, sur les talons. Barakallahu fikoum. Pour les teshahud, on ne s'assoit pas sur les talons. Les talons, c'est seulement entre les deux prosternations, de temps en temps, pas tout le temps. De temps en temps, on s'assoit sur le talon. Mais pour le teshahud, le premier teshahud, ou bien le teshahud de salat sopr, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit avec sa cuisse sur notre jambe, sur notre pied, hein, sur le tibia. Le tibia est le côté intérieur. Et on n'a pas encore parlé comment qu'on fait, comment qu'on s'assoit pour le deuxième teshahud. Le deuxième teshahud, c'est dans le prochain dars. Il n'est pas comme le premier teshahud. On va voir, inshallah ta'ala, la prochaine fois, comment qu'on va s'asseoir si c'est un deuxième teshahud. Om Abdelhaq, est-ce que tu as compris maintenant comment qu'on s'assoit avec sa cuisse sur le pied? Est-ce que tu as compris? Car si tu n'as pas compris, je vais dire qu'il y a beaucoup dans la salle qui n'ont pas compris. Si tu as compris, je vais dire qu'il y a beaucoup dans la salle qui ont compris, inshallah. Est-ce que tu as compris? C'est pour ça que j'ai dit, c'est dommage, il n'y a pas comment mettre une photo. Comment mettre une photo pour voir comment on s'assoit. Tayyib, j'attends, inshallah, la réponse. Naam, je pense, alhamdoulilah, barakallahu fikoum. Jazakallahu khairan, alhamdoulilah. Comme ça fait plaisir. Tayyib, Abu Bilal, tafadhal. Pour Salafia, pose ta question, inshallah. Assalamu alaikum. Au sujet de la salat janaza, après cette prière, l'imam fait des invocations, lève les mains, tout le monde le suit. Est-ce que c'est permis de... Non, ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est une bid'a. Après salat janaza, tout le monde, yani, on suit quoi? On suit le mort et on va à... au cimetière. Bon, celui qui ne peut pas, il va chez lui. Mais, en levant les mains et faisant des doigts après salat al-jalaza, ça rentre dans la bid'a. Naam, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait seulement salamu alaykum. Et ensuite, on prenait le mort et on allait l'enterrer. Et non pas, on lève. Naam, on sait que, naam, quand le groupe, quand ils sont en train de lever les mains, lever les mains et de faire les doigts, toi, tu lèves pas les mains. Reste debout sans lever les mains. Naam. Reste debout sans lever les mains. Personne, inshallah ta'ala, ne t'obligera à lever les mains. Car quand tu quittes le groupe, peut-être tu vas faire fitna, peut-être qu'ils vont remarquer, peut-être qu'ils vont dire pourquoi celui-là, il est contre les doigts. Celui-là, il n'aime pas la personne qui est morte. Celui-là, il est jaloux de cette personne. Celui-là, il est contre cette personne. Ils vont inventer beaucoup de choses. Reste au milieu et ne lève pas avec eux. Ne lève pas avec eux, bidnillah. Naam. Assalamu alaikum. Que faire lorsque pendant la prière, avant de passer le salam, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur ou commis un oubli? Que faire lorsque pendant la prière, avant de passer le salam, je me suis rendu compte que j'ai fait une erreur ou commis un oubli? La réponse est impossible si je ne sais pas c'est quoi exactement l'erreur et c'est quoi exactement l'oubli. Qu'est-ce qu'on a oublié et quelle est l'erreur? Non. Si on a oublié quelque chose, soit on fait cette chose d'après la chose qu'on a oubliée, soit on fait soujoud sahw. Par exemple, on a oublié teshahud, j'ai pas fait le teshahud et au milieu, je faisais salat al-dhahr. Au lieu de m'asseoir dans la deuxième, faire le teshahud, j'ai oublié, je me suis levé. Maintenant, je me suis levé, ensuite je me suis rappelé, je me suis dit, subhanallah, j'ai pas fait le teshahud. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je continue, je reviens pas, marche arrière. Et quand je fais le deuxième teshahud, avant de dire salamu alaikum, je me prosterne, deux prosternations, ensuite, je dis quoi? Je dis salamu alaikum. Donc, ici, pourquoi? Parce que j'ai oublié un teshahud. Mais si j'avais oublié autre chose, la fatwa, yani la réponse aurait changé. Et la même chose pour l'erreur. Je ne sais pas quelle est l'erreur que tu as faite exactement. Naam, Mohamed 54, tafadhal. Je crois que c'est toi qui as posé la question, Mohamed. Non. Elle ne peut pas préciser, car ça lui arrive souvent. Mais cite en exemple qu'après le Teshahoud, elle récite la Fatiha et notre sourate. Non. Quand elle termine, par exemple, si elle a fait une chose pareille, quand elle termine sa salat, elle dit salamu alaikum, salamu alaikum, elle se prosterne deux prosternations pour avoir ajouté des choses. Elle se prosterne et elle redit salamu alaikum, na'am. Quand est-ce que l'on doit baisser le doigt du tashahhud dès que l'imam dit le salam ou lorsque l'imam termine de dire le salam? Non, on ne baisse pas le tashahhud car l'imam a dit salamu alaikum. Mais on baisse le doigt dans le tashahhud quand nous on dit salamu alaikum. On n'a rien à voir avec l'imam. C'est moi qui suis en train de dire le tashahhud derrière l'imam. Lui il a dit salamu alaikum. Peut-être moi j'ai pas terminé, j'ai encore deux mots à dire. Je termine mes deux mots tout en bougeant mon doigt. Ensuite je dis salamu alaikum. Là j'arrête de bouger mon doigt. Naam, je dis salamu alaikum, salamu alaikum. Naam, donc c'est pas l'imam, c'est moi. Je regarde ma salat si elle est terminée. Naam. Oum Youssef pose ta question, salam à 57. Prépare-toi. Assalamu alaikum. Est-ce que ce doigt est fiable? Allahumma khfirli, warhamni, wahdini. Wahdini, wali, walidiya. Je ne connais pas un doigt pareil. Je ne connais pas un doigt pareil. Mais si la personne veut le dire, c'est possible qu'elle le dise. Allahumma khfirli, warhamni. Mais pas entre les deux prosternations. Je veux dire si elle veut le dire comme doua en général. Elle fait un doua, elle dit Allahumma khfirli warhamni wahdini wali walidayya. En général, ça ne fait rien. Mais si elle veut le mettre spécialement dans un endroit, par exemple entre les deux prosternations, etc., elle ne peut pas. Car ce n'est pas ça ce qu'on doit dire entre les deux prosternations. Naam. Uthman. Non, pardon. Salam à 57, tafadlali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on fait le 8 en 3 rak'at, donc avec un seul tashahhud, comment s'asseoir lors du tashahhud? A-t-on des péchés si on n'arrive pas à faire la position pour le premier tashahhud? Non, on n'a pas des péchés. Si on n'arrive pas, on n'a pas de péché. Mais, si on n'arrive pas à faire la position pour le premier tashahhud, mais, ma sœur, si tu dis, si on a des péchés, si on n'arrive pas à faire la position pour le premier tashahhud, j'ai bien peur que tu n'aies pas compris comment on fait le premier tashahhud. Car le premier tashahhud, quand on le fait, la position c'est la plus simple. Mais ce qui est difficile, c'est le deuxième tashahhud. C'est le deuxième tashahhud que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Et s'ils le font, ils vont tomber sur leur dos. C'est le deuxième. Quant au premier, on s'assoit avec sa cuisse sur sa jambe, sur son pied. Elle dit, tout le monde peut le faire. Mais si c'est pour des raisons, quelqu'un est malade ou là, il ne peut pas le faire, il ne le fait pas, c'est pas grave. C'est une sunna, naam. S'il ne le fait pas, c'est pas grave, inshallah ta'ala, surtout si c'est à cause qu'il ne peut pas le faire. Ah, part du premier droit, du pied droit, hein. Et si on n'arrive pas à faire la position pour le premier tashahhud. Naam, le pied droit. Le pied droit, ce qui est difficile, c'est quoi? C'est un peu de plier les jambes vers la qibla. Naam, naam, naam. Naam. Celui qui ne peut pas faire cette chose, il ne la fait pas. Naam. Celui qui ne peut pas plier ses orteils vers la qibla, qu'il ne le fasse pas. Regardez par exemple, pourquoi c'est bien d'apprendre à l'enfant. Quand il est enfant, déjà on lui apprend la vraie sunna, comment il fait la prière. Comme ça, ses os, ses membres vont être habitués à faire ces choses pareilles. Mais si quelqu'un, par exemple, va commencer la prière, par exemple, à 40 ans, ou à 45 ans, on va lui dire, voilà comment tu fais avec tes orteils, etc. ça lui sera très difficile. Surtout le deuxième teshahoud. Naam. Donc celui qui peut pas viser la qibla avec ses orteils, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, alhamdulillah. Quant à le teshahoud pour l'akhar, pour le huître, on s'assoit comme pour le deuxième teshahoud. Car on a annulé le premier teshahoud, on n'a pas fait, on a sauté. Donc, on s'assoit, c'est comme si on faisait le deuxième teshahoud. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Même celle-là, pour être plus sûr, je vais la noter. Même celle-là, pour être plus sûr, je vais la noter, inshallah ta'ala. Tayyib. Uthman, tafadhali. Inshallah, donc, pour ce teshahoud, on reviendra, inshallah ta'ala. On reviendra, naam, avec le délil, inshallah ta'ala. Mohamed a le point rouge. Mohamed 504, où est-ce que tu es, inshallah ta'ala? Naam, je te vois, classe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai vu des gens prier et lorsqu'ils s'assoient, c'est sur les talons pour toutes les prières. Et à chaque fois, seulement les genoux et les orteils touchent par terre, mais les cuisses ne touchent pas par terre et durant toute leur prière, c'est comme ça qu'ils s'assoient. Est-ce autorisé? Ce n'est pas autorisé. Ce n'est pas autorisé qu'ils fassent ainsi. Ce n'est pas autorisé qu'ils fassent ainsi. Ce n'est pas de la sunna. Leur prière, Inch'Allah, est acceptée si ce sont des ignorants, mais elle n'aura pas la valeur et elle n'aura pas autant de récompense comme celui qui a fait la prière, la vraie, comme celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autre chose, certaines personnes, je les ai vues, j'en ai vu beaucoup, quand ils s'assoient entre les deux prosternations, ils font, yani avec leurs pieds, ils font avec leurs pieds, et même pendant le teshahoud, ils font quoi? Ils font une croix. Regardez la croix avec leurs pieds. Ils mettent un pied sur l'autre, le pied droit sur le pied gauche, et comme ça, en forme de croix. Ça aussi, ce n'est pas permis. Surtout si on fait, yani, comme ça, une sorte, yani, c'est comme une croix. Yani, c'est pire. Naam. Tayyib. Youssef, tafadhali. Salam alaikum, salam. Depuis toute petite, on nous a appris à dire entre les deux soujouds, Allahumma ghfir li warhamni warzuqni warzuqni wa'afini wa'afini. Est-ce une sunnah, barakallahu fik? Naam, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu que c'était une sunnah. Et qu'on disait soit ceci, soit on disait Rabbi ghfir li, Rabbi ghfir li. Naam, on l'a vu tout à l'heure dans le das. On a dit que c'est comme ça qu'on dit, ou bien on dit Rabbi ghfir li, Rabbi ghfir li. Naam. Et pour voir ce que tu as dit, si c'est dans l'ordre avec le hadith ou pas, attends que je te lise, inshallah ta'ala, le hadith dans l'ordre, comment qu'il dit. Attendez une seconde. Naam. Je vais voir l'ordre, car l'ordre, des fois, il a de l'importance. Donc, je lis du livre. Il disait, Allahumma ghfirli, warhamni, wajburni. Ensuite, ici, chez toi, il y a warzuqni. Alors qu'ici, il y a wahdini, wa'afini, warzuqni. Naam, je répète, Allahumma ghfirli, warhamni. Ensuite, wajburni. Ensuite, il y a, bon, il y a ici, warfa'ni, toi tu n'as pas warfa'ni, il y a wahdini, wa'afini. Donc ici la faute seulement c'est de mettre wahdini. Attendez, warhamni, warhamni, wajburni, c'est juste jusqu'ici. Ensuite toi tu as warzuqni. Alors warzuqni vient en dernier. Naam. Donc le juste ici c'est de mettre warzuqni en dernier. En dernier. Naam. Jamal 38, tafadhal. J'aimerais savoir encore une autre précision pour le doigt dans le tashahhud, car on m'a dit qu'il y a une divergence et que vous pouvez le garder fixé à la Qibla sans le bouger. Merci. Ceci est une bid'a. Naam. Laisser le doigt fixé vers la Qibla ou alors s'arrêter de bouger. On bouge, dès qu'on arrive à Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammadan abdu wa rasuluhu, il pointe le doigt et il l'arrête. Il ne fait plus bouger. Ça c'est une bid'a. Car il a inventé une chose de sa tête. Il a inventé un arrêt, hein, au lieu de faire bouger, comme bougeait le prophète alayhi sallam, celui-là, il a inventé un arrêt à un endroit spécial. Il a dit, quand c'est le tashahhud, j'arrive à Shahadun la ilaha illallah, Shahadun Muhammad abdu wa rasuluhu, je dois arrêter. Ça c'est pas vrai. Il doit bouger du début jusqu'à la fin. Et celui qui dit qu'on arrête, on doit arrêter le doigt. Quand on dit Shahadun la ilaha illallah, on lui dit dans le dalil, dans nos hadith, qui dit que quand on arrive ici, on doit arrêter le doigt. Naam. Firdaus 13005, tafadhal. Là, ne le pas bouger du tout, il n'y a aucun hadith. Il n'y a aucun hadith qui dit ne le pas bouger du tout. Et supposons qu'il y ait un hadith où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne bougeait pas son doigt. Et maintenant tu as un autre hadith qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam bougeait son doigt. Tu as une contradiction. Qu'est-ce que tu fais ici? Le hadith qui dit ne bougeait pas, c'est un hadith qui nie. Et le hadith qui dit qu'il bougeait, c'est un hadith qui a quelque chose de plus. Il affirme. C'est un affirmatif. Il a affirmé qu'il a bougé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend avec celui qui a affirmé. On ne prend pas avec celui qui a nié. C'est une règle dans Usul Fiqh. C'est une règle, mashallah. Il faut connaître cette règle. Quand deux hadiths se contradisent apparemment, les hadiths ne se contredisent jamais, mais pour nous on dit qu'il y a contradiction. Qu'est-ce qu'on fait? Les deux hadiths sont sahih. Si l'un des deux hadiths est négatif et l'autre est affirmatif, on prend celui qui est affirmatif. Ça, s'il y avait un hadith où il disait qu'on ne bougeait pas, mais il n'y a pas de hadith. Non. Je donne un exemple pour le négatif et l'affirmatif. Regardez. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, a dit, quiconque vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout, yani, il a menti ou ne le croyait pas ou quelque chose comme ça. C'est un hadith sahih. Et on a trouvé un hadith dans le Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est approché d'un endroit où on jetait yani, les ordures et il a uriné. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les deux hadiths sont authentiques et les deux sont dans le Bukhari. Est-ce qu'on prend avec ce qu'a dit Aïcha, notre mère, qui a dit quiconque vous dit que le prophète alayhi sallam a uriné debout, ne le croyez pas. Subhanallah al-Azim. Et un hadith où il est rapporté qu'il a uriné debout. Qu'est-ce qu'on dit? Si on est jahal, on n'a pas d'ain, on va frapper un hadith, avec un hadith, on va frapper l'autre hadith. Mais si on est des gens du ilm, on va joindre avec les deux hadiths avec la règle que j'ai citée. On va dire, le hadith de Aïcha est négatif. Le hadith de l'autre compagnon, où il a uriné debout, est un hadith affirmatif. Il y a quelque chose en plus. Donc, on prend avec ce hadith et on dit que Aïcha, quand elle a nié, ça veut dire d'après sa science. C'est-à-dire, elle ne l'a jamais vu, sallallahu alayhi wa sallam, uriner dans la maison, debout, jamais. Mais elle n'a pas vu ce qui s'est passé dehors et des gens ont vu que le prophète alayhi wa sallam a uriné debout et le hadith est dans le Bukhari. Je donne un autre exemple. Il y a beaucoup d'exemples comme cela dans les hadiths, car c'est une règle. Yani, quand un hadith affirmatif se contredit avec un hadith négatif. Je donne un exemple. Supposons que il y a trois personnes. Personne numéro 1, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Sans citer les noms. La personne numéro 1 dit, je jure par Allah le Tout-Puissant que Omar, la personne numéro 3, je l'appelle Omar. La personne numéro 1 a juré, je jure par Allah le Tout-Puissant que Omar ne fume pas des cigarettes. Ensuite, la personne numéro 2 va dire, je jure par Allah le Tout-Puissant que Omar fume des cigarettes. Subhanallah. Les deux sont des croyants, sont des frères, sont des barbus, sont avec le qamis, ils sont tout le temps à la mosquée. Un, a juré par Allah que Omar ne fumait pas. Et deux, a juré par Allah que Omar a fumé. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire à un, tu es menteur? Ou là on va dire à deux, tu es menteur? Ou là on va dire aux deux, vous êtes menteur? Ou là on va dire aux deux, vous avez dit la vérité? Et alors, ça sera un problème. Alors ici, on applique la règle. On va dire au numéro un, écoute, quand tu as dit, je jure par Allah que Omar ne fumait pas, on t'a cru. Sah, tu ne l'as jamais vu fumer. Mais celui-là, le numéro 2 qui vient de Dieu et que Omar fume, ça veut dire il l'a vu fumer. Donc toi, on ne dit pas tu es un menteur, on dit seulement tu ne l'as pas vu. Et khoui Allah ghalib, tu es pardonné, tu es excusé, mashallah alik, tu n'es pas un menteur. Mais B, qui a juré, il l'a vu, il l'a vu. C'est pour ça, il a un savoir plus que toi. Naam, ziyadatu ilm. Naam, dakant min thiqa, yajibu al-masiru ilayha. Donc, on va croire le numéro 2, que quoi? Que Omar, conclusion, Omar est un fumeur. Omar est un fumeur. J'espère, inshallah ta'ala, que vous avez compris la règle. Elle est simple, mais très bénéfique. Firdaus, 13005. Tafadhal. Naam, normalement le temps est terminé, mais j'ai ajouté un peu. Pourquoi? Parce que, comme demain je travaille pas, et comme je vous ai pris un peu de votre temps, et comme les questions sont, je vois beaucoup de gens qui lèvent les mains, c'est pour ça, on va ajouter un peu de temps, inchallah. Et à Cheikh, j'ai posé beaucoup de questions. Tayyib. Elle a déjà posé sa question. Tayyib. Abu Haroun, Allahu Akbar, Abu Haroun est là, Allahu Akbar. Abu Haroun, tafadlad. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته يا شيخ j'espère que vous allez bien inshallah. Je vais bien inshallah ta'ala et je suis toujours à la recherche de l'appartement inshallah ta'ala pour que tu viennes là. Est-ce que l'on prie en kamis, il est obligatoire de mettre un vêtement en bas ou le sous-vêtement suffit? طيب, attends que je comprenne d'abord. Est-ce que lorsqu'on prie en kamis, naam, il est obligatoire de mettre un vêtement en bas ou le sous-vêtement suffit? Haroun, Abu Haroun, j'ai pas compris la question. Où est-ce qu'on met le vêtement en bas? J'ai pas compris. Qu'est-ce que ça veut dire on met le vêtement en bas? Est-ce qu'on met un vêtement sous le kamis, tu veux dire? Est-ce qu'on met un vêtement sous le kamis? Est-ce que c'est ça la question? J'ai pas compris le vêtement en bas. Doit-on mettre un pantalon sous le kamis, ça? Non. Oui, c'est ça. Quand on prie avec un kamis, si le kamis n'est pas transparent, naam, de façon à ce que, quand on fait la prière, personne ne peut nous voir, le pantalon n'est pas obligé. Le pantalon n'est pas obligé. Ce n'est pas une condition nécessaire. Mais on le met pourquoi? Car, premièrement, le kamis risque d'être transparent. Et deuxièmement, quand on n'a pas quelque chose sous le kamis, quand on fait la prosternation et quand on fait l'inclination ou l'inclinaison, ça montre nos formes. C'est pour ça qu'il est préférable de mettre un pantalon. De mettre un pantalon ou la autre chose. Par exemple, un short au-dessus du kamis. Non, c'est pas spécialement un pantalon. Une chose, pour que lorsque on se prosterne ou là on s'incline, ça ne donne pas la forme de notre aura. Ça ne donne pas la forme de notre aura. Naam. C'est pour ça. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Hilal 1406. Fika barakallah la jazik. J'espère inshallah ta'ala que ça va bien, Abu Haroun. Que ça marche inshallah ta'ala et que tout est dans l'ordre. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohamed 54, j'ai plusieurs questions. Je croyais que tu avais dit j'ai posé mes questions. Abu Haroun, alhamdulillah, continue comme ça, inshallah ta'ala. Continue comme ça, bi'idhnillah azza wa jal. Tayyib. Après Hilal, inshallah, Mohamed 054. Assalamu alaikum. Pouvez-vous réexpliquer la sunna de la position assise entre les deux soujouds? Le fait de s'asseoir sur le talon, là, j'ai pas très bien compris. Naam, inshallah ta'ala. Comment vais-je dire? Quand on fait la première prosternation, quand on fait la première prosternation, cela veut dire est-ce qu'on est sur les genoux et les pieds? Quand on fait la première prosternation, ensuite on va s'asseoir entre les deux prosternations. Ou bien on s'assoit, comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est la plupart du temps ce qu'on fait, on s'assoit avec sa cuisse sur la jambe gauche. Maintenant, pas de problème. Ou bien, on s'assoit sur ses talons. C'est-à-dire que, attends, je vais voir la position. Naam. Donc, comment vous expliquer comment s'asseoir sur les talons? Je mets mes deux talons, je m'assois avec mes deux fesses sur mes deux talons, et on est un peu surélevé. Naam, c'est ça. On est élevé. On a les pieds, les orteils, on a les orteils des pieds qui sont dirigés vers la Qibla. Naam. Donc, on est assez élevé. Naam. D'ailleurs, nos fesses ne touchent pas le parterre. Nos fesses sont sur nos talons. Et nos talons, on est, mashallah, 10 cm là, élevés vers le haut. Naam, c'est comme ça, inshallah ta'ala. Et tu as les orteils des pieds qui doivent être dirigés vers la Qibla. Naam. C'est comme ça, inshallah ta'ala. Naam. Abu Abdullah, pardon, Mohamed Tafadl, Mohamed 0504. Voilà, Hilal, c'est comme ça. Tu le fais de temps en temps. De temps en temps, tu t'assois sur les talons, inshallah ta'ala. Naam. Fiki barakallah. Assalamu alaikum. Alaykoum assalam. Rahmatullah wa barakatuh. Et chérie, qu'Allah te récompense pour la gentillesse et la patience dont tu fais preuve pour répondre à nos questions. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse cela, yani, qu'il accepte cela. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte cela. Naam. Je voudrais connaître le titre du livre et savoir s'il existe en version française. Je voudrais connaître le titre du livre. Ah, naam, le titre du livre. Ça. Le titre du livre, tu parles de la prière. Est-ce que tu parles de la prière, Mohamed? Est-ce que tu parles de la prière? Naam, ça s'appelle la prière du prophète. Le titre s'appelle la prière du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décrite du commencement à la fin, comme si vous la voyez. Je répète, la prière du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, décrite du commencement à la fin, comme si vous la voyez. Édition Dar al-Athar. La prière du prophète décrite du commencement à la fin, comme si vous la voyez. Naam. Édition Dar al-Athar. Traduit par Abu Sulayman al-Albani. Naam. Et moi, ce livre que je suis en train de vous lire, c'est une personne qui me l'a envoyé de France. Naam, c'est une personne qui me l'a envoyé de France. N'oubliez pas de faire des doigts pour cette personne, car yani, elle est la cause pour que aujourd'hui on apprend yani, la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Voilà. Édition d'Al-Afar, traduction de Abu Sulayman Albani. Et c'est un livre, je crois, qui n'a qu'une seule couleur, la couleur rouge. Il est version rouge. Naam. Je ne crois pas qu'il a une autre couleur. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tayyib. Mohamed, on va revenir vers toi, inshallah ta'ala. D'abord, Abu Abdullah al-Firansi. Abu Abdullah al-Firansi, tafadhal. Inch'Allah ta'ala, vous n'allez pas lever les mains après Firdaus. Après Firdaus 130 015. Inch'Allah ta'ala, vous n'allez pas lever la main pour, inch'Allah ta'ala, qu'on ait un peu de temps, yani, pour se reposer un temps, un peu, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certaines personnes prétendent que l'on ne peut pas prier en direction d'une personne, car on ne prie sur une personne que si elle est morte. Peut-on prendre une personne comme Sotra, quelle est la vision de la science, cette question Barakallahu fikoum. Ceux qui disent cette chose, yani, on fait une analogie, mais une analogie fausse. Car le mort on fait la prière sur lui, c'est-à-dire à cause de lui qu'on va faire cette prière. À cause de lui, pour Allah, bien sûr. C'est la prière du mort. Mais celle-là, c'est pas la même chose. Celle-là, on fait la prière sur son dos. Abdullah ibn Omar, radiallahu ta'ala anhu, qui, tout le monde sait, c'est un compagnon qui aimait beaucoup la sunna. Non, tout le monde sait que ce compagnon aimait beaucoup, beaucoup la sunna. Il disait à son valet, à son serviteur qui s'appelait Nafi', radiallahu ta'ala anhu, qu'est-ce qu'il lui disait? Wallini dahrak. Wallini dahrak. Yani, donne-moi ton dos pour que je fasse la prière. Et Nafi' s'asseyait, lui donnait son dos, et Abdullah ibn Omar faisait la prière contre son dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs fois, faisait la prière en prenant comme sutra le chameau, un animal. Il le prenait comme ça, comme sutra, et il faisait la prière. Et aussi Abdullah ibn Omar et aussi beaucoup de compagnons. Yani, quelle est la différence entre un animal et une personne quand on fait la prière en la prenant pour sutra? Donc cette personne se trompe, bi idhnillah azza wa jalla. Naam. Dialo 36, tafadhal. Salam alaikum, alaikum salam wa rahmatullah. Cheikh, est-il de la sunna aussi de mettre ta main gauche sur la main droite dans la prière? Est-ce vrai ce qu'on m'a dit, Cheikh? Pouvez-vous, si c'est ce hadith, c'est authentique. Cheikh, les frères ici au Mali vous passent le salam. Alayka wa alayhim salam. Il y a Diallo 36. Alayka wa alayhim salam. Wa akhbirhum que nous sommes tous des frères dans la religion et que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il unisse nos cœurs dans la sunna, comprise la compréhension des vieux prédécesseurs. Dites Amin et à Diallo. Taïb, est-il de la sunna de mettre la main gauche sur la main droite? Naam, la main droite, on doit la mettre dans la main gauche, sur la main gauche. Ce n'est pas seulement une sunna, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait une salate avec les mains tendu à droite et à gauche. Jamais, il n'y a aucun livre jusqu'à présent de nos jours où il est cité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une salate sans mettre la main droite sur la main gauche. Tous les hadiths, il n'y en a pas. S'il y en avait tous, ce sont des hadiths faibles qui ne sont pas authentiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est dans le Muwatta de l'imam Malik et dans beaucoup d'autres livres, il a dit « Nahnu ma'ashir al-anbiya » Nous les prophètes, il nous a été ordonné de mettre la main droite sur la main gauche dans la salate. Maintenant quelqu'un va dire, donc ça c'est particulier, ce sont les prophètes qui il leur était ordonné de mettre la main droite, ce n'est pas nous. On va répondre très vite, on va dire premièrement, les prophètes, ils ont été envoyés pour qu'on les suive. Le prophète a dit, priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Ça veut dire, quiconque a vu le prophète sallam prier, doit mettre la main droite sur la main gauche. Car il l'a vu avec la main droite sur la main. Et nous, qui ne l'avons pas vu, on a vu ces hadiths. On a vu les hadiths authentiques qui disent que le prophète sallam mettait la main droite sur la main gauche. Et ensuite, lui, une fois, il est passé, il a trouvé quelqu'un avec la main gauche sur la main droite. Le prophète alayhi salatu wasalam a vu quelqu'un mettant la main gauche sur la main droite. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu comme ça chez lui et lui a fait changer les mains. Il l'a corrigé. Il lui a mis la main droite sur la main gauche. Or, si c'était pas comme ça la sunna, il lui aurait défait les mains. Il lui aurait mis sa main gauche sur, yani, de côté et la main droite sur le côté droit. Il lui aurait enlevé les mains qui étaient l'une sur l'autre, mais d'une façon fausse. Mais non, le prophète Aslam, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a corrigé. Qu'est-ce qu'il a corrigé? Il lui a mis la droite sur la gauche. Ça veut dire, voilà comment on doit faire la prière, bidna ta'ala. Et ceux qui ne mettent pas la main droite sur la main gauche, ce sont ou bien des gens ignorants, ou bien ceux qui disent que nous on est malikites, ils disent le rite malikite, c'est comme ça. Alors que ce n'est pas vrai, car l'imam Malik en personne, rahimahullah, a cité ce hadith dans son livre Al-Mawta. Et le grand savant malikite, Ibn Abdul Barr, le grand savant malikite, Ibn Abdul Barr, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Qubida Malik wa huwa yaqbid. Qubida Malik wa huwa yaqbid. Dans une autre version, Mazala Malikun yaqbid hatta qubid. C'est-à-dire, tout le temps que l'imam Malik mettait la main droite sur la main gauche jusqu'à ce qu'il soit mort. Allez. Et, ou bien j'ai dit, il est malikite, c'est pas vrai, ou bien c'est un chiite. C'est un chiite. Non. Les chiites, quand ils font la salat, ils ne mettent pas la main gauche sur la main droite. Non. Taïb. Astaghfirullah, tu voulais. Abu Abdullah 94. Astaghfirullah. Salam alaikum, salam alaikum, barakatuh. J'espère vraiment que vous allez revenir en Algérie. Ma question serait de savoir si on pouvait effectuer directement et après ça la triche à l'huître, par crainte de ne pas la faire par la suite. Allah yahabda. Naam, premièrement, inshallah ta'ala pour l'Algérie, inshallah très bientôt. Et deuxièmement, tu peux, après Salat al-Isha, faire directement l'huître. Naam, si tu as peur ou là tu es fatigué, même si tu es à la mosquée, tu es fatigué, tu dis moi, si je vais à la maison, je suis sûr que je vais tomber directement. Même si tu fais l'huître à la mosquée, ce n'est pas grave. Naam, la meilleure des choses, c'est de la faire à la maison. Mais ce n'est pas grave si tu fais directement l'huître après l'Isha. Ce n'est pas grave, Inch'Allah Ta'ala. Non. Tayyib. Aya 01, tafazzali Aya 01. Assalamu alaikum. Alaikum salam. J'aimerais savoir, d'après ce que vous avez dit tout à l'heure, quand on reste chez vous, doit-on arrêter de bouger l'index quand on dit la shahada? Certains prétendent cela, barakallahu fikoum. Aya, je crains que tu n'étais pas là avec nous tout à l'heure. Je viens de l'expliquer pendant au moins 5 minutes ou 10 pour dire que c'était bid'a d'arrêter de bouger l'index. C'était bid'a d'arrêter de bouger l'index quand on dit shahadun la ilaha illallah, shahadun muhammadan abduhu wa rasuluhu, ou bien de ne pas pointer le doigt du tout. La sunna, c'est de commencer, c'est de pointer le doigt vers la qibla et de le bouger. À partir du moment où on dit tahiyatu lillah, zakiyatu lillah, khlas, il bouge avec nous. Pointer vers la qibla, je suis en train de dire tahiyatu lillah tout en regardant mon doigt. Je regarde mon doigt et je fais tahiyatu lillah, zakiyatu lillah, tayyibatu lillah, jusqu'à ce que je dise salam alaikum. Même quand j'arrive aux dernières évocations, la invocation où on dit A'udhu billah wa min a'udhuka min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnat ou min fitnat sharri al-mahmat ou sharri al-masih al-dajjal, la même chose. Tu bouges ta main, ton doigt, jusqu'à ce que tu dises salam alaikum wa rahmatullah. Naam. Sabr wa amal, tafaddal ou tafaddali. Naam. طيب صبر وامل طيب pour ne pas perdre de temps, Souleymane de Lyon. تفضل اخ سليمان de Lyon. نعم محمد attends un peu بارك الله فيك. نعم attends un peu car il reste seulement 25 minutes. Et Fahimt, il faut qu'on choisisse certaines questions, sinon yani, on ne peut pas les faire passer tout aujourd'hui. Naam. Souleyman de Lyon, j'ai deux questions. Jazakallahu khair, normalement une question, barakallahu fik Souleyman. Une question, inshallah. La première concernant la Jumu'ah, je travaille le vendredi après-midi et pour la Jumu'ah c'est difficile. Est-ce qu'il m'autorise de rater Jumu'ah et de faire le troisième? Car les frères où on dit qu'il y a un hadith qui dit comme ça, celui qui l'offre pas du mois à la suite, c'est pas bon. La deuxième question à fond, ma mère m'est du aîné, est-ce qu'elle peut passer de l'eau dessus pour les ablutions? Non, pour la Jumu'ah, j'ai lu les grands savants qui disent que ce n'est pas possible de rater la Jumu'ah et de faire tout son possible pour faire la Jumu'ah, sauf si on est quoi, on voyage par exemple. Non. Et même en voyage, si on entend l'appel, on doit y aller. Non. Si la mosquée n'est pas loin, bien sûr. C'est pour ça que essaye de faire le maximum tes Jumu'ah. Essaye de faire au maximum tes Jumu'ah. Et de ne pas laisser, même une Jumu'ah, inshallah ta'ala, de ne pas la laisser passer. Comme Youssef dit, on vient de m'envoyer un lien en anglais. Je préfère ne pas le mettre tant que je ne l'ai pas vu. Car peut-être qu'il contient des choses qui sont fausses. Par exemple, les doigts qui ne sont pas pointés vers la Qibla, etc. Je viens pas prendre la responsabilité, inshallah ta'ala, jusqu'à ce que je vois le site.
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري
السلام عليكم ورحمة الله أم يوسف لاس إن شاء الله تعالى لا فوا با لا بروشين فوا لاس لو فيرسي تيرميني إن شاء الله تعالى طيب اسكو مونتوندي اسكو مونتوندي إن شاء الله الحمد لله طيب il reste un quart d'heure إن شاء الله après le quart d'heure je ferme la salle بإذن الله تعالى car déjà je me sens un peu fatigué même يعني s'il y a 100 questions نعم Inch'Allah ta'ala, vous t'excuserez bi'idna azza wa jal. Je disais que pour le Jumu'ah, qu'il doit faire des efforts pour ne pas laisser le Jumu'ah. Naam, pour ne pas laisser le Jumu'ah, car c'est très important, c'est très important. Et, pour sa mère, j'avais dit que, ou bien, elle fait les ablutions avant de mettre le aîné, ou bien, si elle a mis maintenant le aîné, c'est trop tard, elle met un foulard sur sa tête, et quand elle fait les ablutions, elle essuie seulement sur le foulard, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou, dans son livre, Sharh al-Mumti'a. Naam. Abu Bakr 92, tafadhal. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai appris que l'école n'était pas une excuse pour retarder la prière. Donc, je la fais au lycée, alhamdoulilah. Mais le problème, c'est que je ne connais pas la direction de la Qibla. Est-ce que ma prière est acceptée si je la fais dans n'importe quelle direction? Naam. Tu essayes d'abord de demander à quelqu'un s'il connaît la Qibla. S'il connaît pas, et tu sais que si tu fais pas la prière, son temps va sortir, qu'est-ce que tu fais? Alors tu l'as fait, tu choisis une qibla, tu choisis à peu près d'après le soleil, d'après, yani tu demandes toi par exemple à la mosquée, tu dis par exemple en France ou là le pays où je suis, comment qu'on connaît la qibla? S'ils te disent par exemple, tu laisses le soleil à ta gauche par exemple, voilà, toi donc tu essaies de voir où le soleil sera, tu le laisses à ta gauche, si tu trouves pas comment, tu choisis n'importe quelle qibla, tu choisis un endroit, yani une direction, et tu l'as fait bi'idna azzawajal et tu demandes ya Abu Bakr, tu demandes à un ami ou à un parent là qui va par exemple à la Mecque etc., qui t'achète la direction de la Qibla. C'est une petite boussole qui ne coûte rien du tout à la Mecque. Celle-là tu la mets dans quoi? Tu la mets dans ta poche. Il suffit une seule fois de connaître la Qibla, ensuite tu n'en as plus besoin, seulement pour le voyage etc. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sabriya, tafadhali. N'oublie pas la boussole hadith de demander à quelqu'un de la ramener du Hajj, Inch'Allah. Salam alaikum, wa alaikum salam. Est-ce permis de dire Subhan Rabbi al-Azim lors de l'inclinaison et Subhan Rabbi al-A'la lors du sujoud ainsi que le Tashahud et tout ceci à haute voix? Car j'ai entendu un membre de ma famille prier de cette façon et dans le cas où ce sont permis, la prière est-elle valide? Est-ce que c'est permis de dire lors de l'inclinaison Naam. Cette personne sûrement ne sait pas, c'est tout. Cette personne sûrement ne sait pas. Car ces choses, ces trois choses que tu viens de citer, on doit les faire à voix basse. Si la personne qui a fait cela ne sait pas, sa prière est valide. Sa prière est valide, inshallah ta'ala. Non, pourquoi? Parce que c'est une ignorante. Cette personne est une ignorante. Elle ne sait pas que, dans ces trois positions, on doit lire à voix basse. On doit lire à voix basse. Mais si c'est une ignorante, elle sera excusée, inshallah ta'ala. Et l'ignorant est toujours excusé. Sauf que l'ignorant, des fois, il a des péchés pour ne pas avoir demandé d'ilm. Naam. Car le ilm, demander le ilm est une obligation. Comme il est obligé de jeûner, de faire la prière, d'acquitter la zakat, il est aussi obligé de demander le ilm. Surtout la prière. Surtout la prière. Donc cette personne, on lui apprend seulement avec sagesse que la sunna, c'est de ne pas dire ces choses-là à voix haute. والله سبحانه وتعالى أعلم نعم مسلمة 07 تفضلي فيك بارك الله محمد إن شاء الله تعالى attends qu'on finisse avec ceux qui ont levé les mains إن شاء الله تعالى السلام عليكم يا شيخ j'espère que vous allez bien الحمد لله je vais bien بارك الله فيك je voulais savoir si c'est permis de prier en étant maquillé بارك الله فيكم Naam, je voulais savoir si c'est permis de prier en étant maquillé, barakallahu fikum. Je ne connais pas quelque chose qui interdise cela. Je ne connais pas quelque chose qui interdise cela. Naam, je n'ai jamais lu que c'était interdit à la femme de faire la prière si elle est maquillée. Naam, je n'ai jamais lu que c'était interdit à la femme de faire la prière si elle était maquillée. Naam, Allah, sauf si bien sûr elle est maquillée avec quelque chose de haram. Naam. Si le maquillage yani, qu'elle a mis, c'est quelque chose de haram, ça c'est autre chose. Mais si c'est un maquillé, elle s'est maquillée d'une façon yani, avec quelque chose qui est halal, inshallah ta'ala, ce n'est pas haram. Naam. Hafsa 01, Allah ta'ala alam. Et pour la salle à ton maquillage, je viens de l'annoncer pour bien la chercher, inshallah ta'ala. Naam. Assalamu alaikum. Alaykum assalam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik pour ce dars très bénéfique. Jazakallahu khayran. Mais j'ai un peu du mal à comprendre les différentes positions pour le tashahhud. Connaissez-vous un livre ou un site où les positions sont imagées? Barakallahu fik. Je ne connais pas de site. Il doit y en avoir. Mais je ne connais pas jusqu'à présent. Non. J'ai vu un site, on m'a montré une fois un site. J'ai essayé de le voir aujourd'hui. J'ai trouvé qu'il y avait des fautes. C'est pour ça que je n'ai pas mis le lien ici devant vous. Non. Mais ce n'est pas difficile, inshallah ta'ala. Car on a parlé seulement du premier tashahhud. On n'a pas encore parlé du deuxième tashahhud, comment s'asseoir. Non. Mais inshallah ta'ala, c'est facile. On s'assoit seulement sur le pied. Avec la khol. Mais je vous chercherai, inshallah ta'ala, un lien. Naam. Naam. Réécoute le dars, inshallah ta'ala. J'ai essayé d'expliquer au maximum pour que ma parole devienne une image. Pour que ma parole devienne presque comme une image, inshallah ta'ala. Inshallah, en réécoutant, tu comprendras. Sinon, inshallah ta'ala, je chercherai dans les sites, inshallah ta'ala. Naam. Nor muslim, tafadhal. Dans l'islam, pardon, c'est pas dans le musulman. Salam alaikum. Salam alaikum. Doit-on réciter la fatiha avec l'imam barakallahu fi? Quand c'est dans une salat où l'imam lit à voix basse, on doit lire la fatiha. Quand c'est avec l'imam qui lit à voix haute, il y a une divergence entre les ulama. Naam. L'avis que j'ai choisi, bidna ta'ala, c'est de ne pas lire avec l'imam qui lit à voix haute. Sauf s'il se tait. Sauf s'il lit le Fatiha, ensuite il se tait, il donne aux gens, yani il se tait pour laisser les autres qui sont derrière pour lire, confond beaucoup d'imams. Moi, s'il me donne cette occasion, pour ne pas laisser le vide, je vais lire, c'est tout. Mais, yani, quand il y a voix basse, tout le monde doit lire sa Fatiha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Haroun 17, tafadhal. Inch'Allah ta'ala, les trois derniers. Inch'Allah ta'ala, les trois derniers. S'il y a encore quelques minutes qui restent, si ce n'est pas une heure du matin, on donne à Mohamed 504. Et peut-être Haroun n'est pas là. Fil 12, 13 015. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Doit-on finir les deux tashahoud jusqu'à la fin ou finir la première tashahoud jusqu'à la shahada? Car dans beaucoup de pays, surtout dans mon pays, ils font leur première tashahoud jusqu'à la shahada et le qunut entre les deux rak'at de sabr. Barakallahu fik. Je répète, doit-on finir les deux tashahoud jusqu'à la fin ou finir la première tashahoud jusqu'à la shahada? Naam, le premier tashahoud, on s'arrête à la tashahada. On s'arrête, shahadun la ilaha illallah, shahadun muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ici, on s'arrête. Mais, Sheikh Al-Albani a dit, c'est possible, si on veut, dans le premier tashahoud, on termine. Ce n'est pas obligatoire. Si tu veux avoir plus de récompenses, même dans le premier tashahoud, il est permis de continuer. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد et comme ça. Tu peux, c'est une sunna, si tu veux, le premier tashahoud, tu le continues jusqu'à sa fin. Mais, si tu veux t'arrêter à l'obligatoire, tu t'arrêtes seulement à quoi? Shadun la ilaha illallah, shadun muhammadan abduhu wa rasuluhu. C'est tout, tu t'arrêtes ici. Car le premier tashahoud, comme vous devez le savoir, il est seulement. Et ce n'est pas comme le deuxième. Le deuxième, il est rokn. Naam, c'est un pilier, le deuxième. Taïb. Et quant au deuxième, bien sûr, on doit dire jusqu'à la fin. On doit dire jusqu'à la fin. Et on doit même dire à la fin, Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam wa min adhab al-qabr wa fitnat al-mahya wal mamat wa fitnat al-masih ad-dajjal. Et le qunut entre les deux rak'at du subh. Le qunut entre les deux rak'at du subh. Le qunut du subh n'existe pas dans la sunna. Le prophète a.s.w. l'a fait pour des raisons, ensuite l'a plus fait. Naam. Si on veut faire le qunut, on ne fait pas seulement dans salat subh, on le fait dans les cinq prières. Qunut al-nawazil. Mais, dans certains pays, comme dans mon pays aussi, certains imams ne le font que dans salat subh. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est pourquoi, si l'imam va faire le qunut, moi, qu'est-ce que je vais faire, puisque le qunut, c'est bid'a. Il le fait seulement dans salat sobh, il veut pas le faire dans les autres salats, donc moi je profite, je vais lire le fatiha. Naam. Nanouni, tafadzal. Le dernier, inshallah. Nanouni, tafadzal. Ou tafadzali. Tayyib, peut-être qu'il n'est pas là. Tayyib. Nanouni, tafadzal. J'ai reçu des liens pour la position dans la salat. Des images. Tayyib, atteignez le lien, je vais le voir. Donne-moi le lien, je vais le voir seul. Ensuite, s'il est vrai, je vais le poser dans, coller dans la salle. Donne-moi le lien, inshallah ta'ala. Assalamu alaikum, alaikum salam, rahmatullah. Est-ce que la masse des musulmans, l'awam, ne faisant partie d'aucun groupe chiite, Soufi, Tablir, Ikhwan font partie de Ahl Sunnah, Firqatu Najiya, sachant qu'ils peuvent commettre des contradictions dans la Aqida ou commettre des bid'ah par ignorance? Est-il vrai aussi que ces personnes, masse de musulmans, il continue, Inch'Allah, sur la base du verset, Inna aradna al-aman ta'ala, Inna ukaina zalouman jahula. Tayyib. En principe, pour faire partie de Al-Sunnah al-Jama'a, bien sûr, pour faire partie de Al-Sunnah al-Jama'a, il faut connaître les bases et les dogmes de Al-Sunnah al-Jama'a. On ne peut pas en faire partie si on ignore ces choses ou alors si on est contre. Naam. C'est pour ça que les Awam ont dit qu'ils sont de Al-Sunnah comparés aux chiites, etc. Naam. Comparés aux chiites, par exemple. On a les sunnas et les shia. Tout le monde qui n'est pas shia, naam, des masses, et alors sunni, et des sunnas. Naam, c'est en comparant avec les shia. Mais de Ahl Sunnah ou Jama'a, celui-là, il faut qu'il ait le dogme de Al-Sunna al-Jama'a. Naam, qu'il connaisse qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus du ciel, qu'il descend, qu'il a ceci, qu'il rit, qu'il... Mais cette chose, cette science, elle diffère d'une personne à l'autre. Naam, je trouve quelqu'un qui est bien ancré dans cette science, quelqu'un qui n'en connaît qu'un peu. Naam. Mais si en général, yani, au moins, il aime cela, Al-Sunna al-Jama'a, il n'a pas de ilm pour apprendre ces choses, etc. Celui-là, au moins, il est très près d'eux. La preuve, il ne les combat pas. Naam, il fait des bid'a, je sais. Il les fait par djahl et par ignorance. Allah subhanahu wa ta'ala peut lui pardonner. Et Allah ta'ala peut aussi le châtier s'il n'a pas demandé le ilm, s'il pouvait le demander. Naam, s'il a les moyens, il est assez, masha'Allah, cultivé, etc. Et il veut pas apprendre le din, celui-là, bien sûr, il aura quoi? Il aura des péchés pour ne pas avoir demandé le ilm. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Les quatre dernières questions, Achir. Je ne crois pas. Attends une seconde. Rachid, normalement on a terminé, Rachid. On a terminé, naam. Mais puisque tu as levé ta main, ça ne fait rien pour ne pas te laisser seul comme ça. Pose inshallah ta'ala ta question, Rachid. Mohamed, choisis une question des quatre. Choisis une question des quatre, inshallah, et pose-la moi. Car il est 1h du matin, chez moi. Je suis un peu fatigué, inshallah ta'ala. Naam, inshallah jeudi ou vendredi, si après les repères de la sunna, s'il reste pas beaucoup, yani s'il termine assez tôt, inshallah ta'ala, on continuera les questions-réponses. Salamu alaykum. Après l'Isha, on fait rawatib en 2 rak'at. Et le 8 en 1 rak'at. Est-ce que tu peux faire 3 rak'at avec un seul tashahud? Est-ce que les 2 rak'at rawatib et le 8 sont comprises dedans? Naam. طيب ام يوسف اعطوني سكوند طيب انفوا مو على لي ان شاء الله جي دي ابري صلاه العشاء il y a ce qu'on appelle deux rak'at rawatib que les gens appellent shaf. Hein, j'en ai parlé longuement et je reviens encore une fois, maalesh, les gens d'habitude font deux rak'at après l'Isha. Et ils appellent cela shaf'a. Naam, ils appellent cela shaf'a. J'ai montré que le shaf'ada, yani, c'est une appellation comme ça. Mais qu'en fait, ces deux rak'at qu'on fait après l'Isha et que les gens appellent shaf'a, ça rentre où? Ça rentre dans le hadith qui dit que quiconque fait 12 rak'at, et yuhafid alayhina, Allah subhanahu wa ta'ala lui construit une maison où là, yani, la porte dans le paradis. Naam, ou là, un palais dans le paradis. Donc, ces deux rak'at, on ne peut pas les faire avec le huître attaché. Naam. Ces deux rak'at, on doit les faire seul. On ne les cherche pas. On ne les attache pas avec le huître. On fait deux rak'at seul. On dit salam alaikum. Après, on fait le huître. Si tu veux une rak'at. Si tu veux trois. Naam. C'est comme ça, on doit séparer la watib du witr, inshallah ta'ala. Naam. Mohamed, inshallah ta'ala, pose ta question, Mohamed, qui sera la dernière question, tafadhal. Fika barakallah. Wasmak, Yousuf, ces deux liens, moi c'est difficile pour moi de rentrer voir à cause de le débit. Le débit est faible ici, ce n'est pas comme en France. Vous pouvez voir très facilement la vidéo, etc. Pas comme moi ici. Inch'Allah ta'ala, aide les deux liens, tu les regardes, et ensuite tu me dis, Inch'Allah ta'ala, si c'est comme j'ai dit dans le dars ou non. Inch'Allah ta'ala, je veux pas les afficher maintenant, je ne sais pas s'ils contiennent de la sunna vraiment ou pas. Je peux pas prendre cette responsabilité, Inch'Allah ta'ala. J'ai un gros problème très sérieux aujourd'hui. Je suis allé à l'ambassade pour faire le passeport de ma femme. Mais ils ont refusé les photos avec le khimar. Car ils nous ont donné un papier sur lequel c'est marqué que la tête doit être couverte. Maintenant, ma femme et moi sommes très inquiets. Elles se sont très très mal. Cher, pouvez-vous me dire que dois-je faire? Je m'excuse de poser une telle question, mais c'est vraiment la daroula. Wallah, il faut que je relise, j'ai pas compris la question. Je suis allé à l'ambassade pour faire le passeport de ma femme. Mais ils m'ont refusé des photos avec le khimar. Ils nous ont donné un papier sur lequel c'est marqué que la tête A doit être découverte. Naam, j'ai compris. Maintenant, ma femme et moi sommes très inquiets. Elles se sentent très très mal. Pouvez-vous me dire le... Naam, regarde. Si tu as besoin du passeport pour quelque chose de daroura, si tu as besoin de passeport pour quelque chose de daroura, comme la hijra, c'est quelque chose de daroura. Dans ce cas, tu peux lui donner la photo, même si la femme ne porte pas le foulard. Naam, parce que tu es dans la daroura, et c'est pas à cause de cela que tu vas rester dans un pays de coffre. Naam. Mais si c'est pour le passeport, pour aller aux touristes, pour aller en Allemagne, ou là pour aller en Égypte, touriste, celui-là, tu peux pas leur donner la photo à cheveux découverts. Naam, tu peux pas leur donner la photo à cheveux découverts. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. On se rencontre, inshallah ta'ala, peut-être vendredi pour continuer les questions-réponses. Si les repères de la sunna, yani, terminent assez tôt, bi'idna ta'ala. Sinon, je vous donne rendez-vous samedi pour le dars de la aqida, inshallah ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته